Essayez. Depuis quelques jours, il y a une sorte de redoux. Comme une tentative de printemps et ça érotise tout. Tout à coup, les gestes de la vie quotidienne les plus anodins sont chargés de sensualité. Saisir une tasse de café, ressentir l'onctuosité de la porcelaine. Faire glisser le café dans sa gorge comme une rosée du printemps. Ouvrir sa porte, garder la poignée en main, comme une fesse, un sein, une épaule, un petit peton. Avancer ses pas sur la chaussée ou sur le quai du métro et ressentir la douceur du macadam. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. Je vais aller prendre une douche. On commence.
Ouais, très bien.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Très, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, ta gala, la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Thierry Paret, 7h02. Allez-y, Molo, on est très sensible, Thierry.
Ok, bonjour à tous.
Bonjour.
La journée d'hier a dû paraître encore bien longue hein, à François Fillon et celle d'aujourd'hui devrait l'être tout autant avec de nouvelles révélations, entre guillemets, parce qu'on avait déjà commencé à évoquer cette info. François Fillon est soupçonné d'avoir touché plus de 750 000 euros de bénéfices depuis juin 2012 grâce à sa société 2F Conseil. L'opacité de ses clients, son rôle dans le groupe Ricole Lasteri, qui conseille de nombreuses sociétés du CAC 40, oui, sont notamment pointés du doigt par certains élus hein, qui évoquent des soupçons de conflits d'intérêts. L'émission Envoyé spécial doit diffuser ce soir des extraits vidéo inédits et plutôt embarrassants hein, d'une interview de l'épouse de François Fillon. Elle dit ceci: « Moi, je n'ai jamais été l'assistante de mon mari et je ne me suis pas occupée de sa communication non plus. » Ce sont deux phrases, donc lourdes de conséquences évidemment au regard des événements de ces derniers jours que Pénélope Fillon a prononcées lors d'un entretien avec des journalistes britanniques du journal Telegraph.
Telegraph. 2007. Non, c'est, pardon, je me permets. Telegraph. Allez, pardon, Thierry.
Que l'on pourra entendre ce soir.
Quel hein, journal, vous
voilà,
disiez?
Ah oui, le Telegraph.
Non. Atman, c'est Telegraph. Non.
Ah,
non.
Bah, voilà, oui, non,
allez, Atman, pardon. Pas,
non. Pardon, avant
non,
que vous me repreniez.
Pardon, excuse-moi de vous attendre.
Non, mais c'est important.
Non, c'est pas. C'est Telegraph.
Telegraph. Ah, oui.
Non, pardon, c'est pas contre vous. Refaites-le.
Si, ouais. Telegraph.
Non, pas du tout. Oui, Christophe.
Telegraph.
Ah, pas du tout. Et non.
Ah, bah, dites-nous alors.
C'est Telegraph.
Ah oui, quand ça, même, on sent la...
Vous voyez, allez-y.
Alors c'est pas le même, je crois.
On sent l'école suisse.
Alors, allez-y, allez-y Thierry.
Telegraph.
Ah non, ça veut pas dire la même chose Telegraph. Du tout. Là, c'est une insulte. Non. Si on parle du journal, c'est l'évocation du télégraphe français, comment envoyer un télégraphe, c'est Telegraph, Atman.
Telegraph.
Et non, on n'y est pas.
On ah
y,
si,
on y reviendra.
Les amis, on passe la seconde.
Non, mais on va passer la seconde, mais on y reviendra.
C'est
un pays anglais. L'Angleterre vient d'adhérer à l'Union Européenne. Ah non.
Ah non, monsieur.
Bon, alors, on s'en fout.
EDF accentue sa politique de suppression d'emplois. 5000 postes devraient être supprimés dans les 3 ans à venir. Le plan de transformation, il s'appelle comme ça, du groupe, prévoit une réduction des coûts de 1 milliard d'euros entre 2015 et 2019. Rex Tillerson, va falloir vous y faire à ce nom, hein, en lieu et place de John Kerry, après une bataille
Rex
acharnée. Le Sénat américain a confirmé l'ancien PDG d'ExxonMobil au poste de secrétaire d'État par 56 voix contre 43. L'industriel texan, 64 ans, devient ainsi le visage de la diplomatie américaine. Opposant historique en République démocratique du Congo, leader de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi est mort à Bruxelles hier soir. Il avait 84 ans. Revenu au pouvoir après des législatives en décembre, les sociaux-démocrates roumains font déjà face à leur première manifestation, des grosses manifs, puisqu'il y a eu 300 000 personnes qui ont défilé hier dans les rues de plusieurs villes en Roumanie, notamment les rues de Bucarest, hein, la capitale, au cri de démission, voleurs, traîtres, carrément, pour dénoncer un décret gouvernemental adopté en urgence destiné à alléger le code pénal pour les délits de corruption. Avec ce nouveau texte, l'abus de pouvoir, par exemple, n'est plus passible de prison, sauf à provoquer un préjudice supérieur à 44 000 euros. Les Roumains n'ont pas tardé évidemment à comprendre que ce décret permet à de nombreux hommes politiques d'échapper à des poursuites. Le recours aux produits phytosanitaires, c'est-à-dire insecticides, fongicides, herbicides, a connu en France un léger recul entre 2014 et 2015, marquant pour pour la première fois une baisse depuis 2009. Pour autant, ce sont des chiffres en trompe-l'œil, hein, parce que cette inflexion ne suffit pas à enrayer la tendance de fond à l'utilisation massive de pesticides dans l'Hexagone, qui est l'un des plus gros consommateurs de ces substances en Europe. Trois jours après la victoire de la France au championnat du monde de handball, les frères Karabatic ont été condamnés par la cour d'appel de Montpellier à 2 mois de prison avec sursis, 10 000 euros d'amende pour complicité d'escroquerie dans l'affaire des paris truqués, portant sur le résultat d'un match du championnat de première division, c'était en 2012. L'Égypte a battu le Burkina hier soir en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte est donc en finale et affrontera le vainqueur de la rencontre ce soir entre le Cameroun et le Ghana. Et puis un mot des 16e de finale de la Coupe de France de football. Monaco est passé tout près de la trappe en fait, face à Chambly, équipe de nationale. Hein, et Monaco menait 3-0 à la première mi-temps et les Chamblaisiens, je ne sais pas comment on dit, sont revenus à 3 partout. Bon, finalement, Monaco s'impose 5-4. Et qualification aussi du Paris Saint-Germain qui a battu Rennes 4-0.
Merci. Comment, y avait un journal anglais qui parle de Fillon ce matin ?
Non, je crois pas.
Au début du journal.
Ah bon, tu crois ? J'ai pas fait gaffe.
C'était quoi ? Parce que je voulais revenir là-dessus sur Fillon.
Le Guardian ? Non, c'est pas celui-là.
Le
Telegraph.
Non, alors déjà, le premier vous avez dit ?
Le Guardian.
Non, pas du tout. Non, c'est important.
Le Guardian.
C'est une langue qui représente.
On dit pas quoi.
C'est la première langue mondiale, Guardian. Vous savez l'anglais.
Est-ce que c'est le remake de Pygmalion, là, le type qui fait pendant des heures de demande à ce qu'on
Non, c'est simplement de respecter les us et coutumes, les langues de pays amis, de culture amie. La culture anglo-saxonne est frère de la culture française. Et moi, quand les Anglais, les Américains viennent ici, ils disent tiens, où est le gardien de l'immeuble ? Ils disent gardien. Eh bien, moi, quand je disais Guardian, je dis Guardian. C'est du respect. C'est tout.
Comment tu l'as dit, là ?
Tu l'as dit.
Bah, j'ai dit gardien, non ?
Ah non. Non,
ah bon
guardian,
c'est comment, en fait ?
Comment on dit la gardienne est dans l'escalier, par exemple.
Garden.
Garden is in the stair.
Yeah.
The garden is in the stair. Reading the telegraph.
Fine, very well.
Eh ben voilà, alors prenez à tout de suite avec le grand plateau de connoisseurs de culture et on sera avec François Fillon.
Oui.
Ah, très étonnant, vous le tenez. François Fillon ?
Oui.
La pêche ?
Oui.
Ben non.
Mais si.
Autant l'imitation est juste, autant le texte n'est pas...
Est à chier.
Voilà.
7h09, plus près de toi.
Les copains commencent à arriver là, à prendre des cafés.
Oui.
Voilà des croissants, tout le monde ouvre la presse, tout le monde est sur le net. Tito accorde sa guitare. Et puis, voilà, chaque...
Oui.
Pardon, je me suis lancé dans une phrase. Tu vois pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez relevé un peu ce matin, Thierry Christophe ?
Il y a plein de choses. Moi, j'ai vu
que vous avez dit bonjour. Je ne me rappelle pas. Vous avez dit bonjour ou pas ?
Ah oui, j'ai dit bonjour à tout le monde.
Quel malpoli !
Ah non, peut-être pas.
Vous êtes dans un entre-soi à vous tout seul.
Mais non, c'est parce que avant vous nous.
Si vous êtes très excluant.
Moi, j'ai beaucoup d'auditeurs. Bonjour Admen, bonjour Christophe. Non. Et puis là, vous ne dites plus. Alors du coup.
Parce que je pensais que vous commenceriez. Parce que vous êtes excluant. J'ai des appels d'auditeurs qui disent
ah bon
vous êtes. On sent que Christophe Ménet, il ne nous aime pas.
Mais peut-être parce que je n'aime pas les gens.
Ah bah tout simplement. Bah nous les aimons. Alors
non. Bonjour à tous.
Alors ils vous aiment pas bonjour. Non plus.
Oh. Et puis qu'est-ce que vous avez noté ?
J'ai noté qu'un prince saoudien fait voyager ses 80 faucons parmi les passagers d'un avion.
C'est dans la presse ce matin,
oui,
ça ?
Oui, tout à fait.
Mais dans son avion à lui, il fait ce qu'il veut.
Non. Sur la compagnie Qatar Airways, il a acheté 80 places pour ses faucons qu'il a installés sur des sièges comme des passagers ordinaires.
Mais c'est peut-être en tourisme, c'est peut-être pas en business.
Ah alors c'est sûrement
bah,
en
voyez,
tourisme. Il y a une photo de ça. On remarque que les autres passagers se comportent comme si tout allait bien avec les faucons qui sont là, qui sont attachés en plus.
Oui.
Ils sont très contents. Et puis,
il y a 80 faucons.
Ils ont les yeux voilés.
Et 10 vrais connards.
Voilà.
Ça, c'est bien. Oui, dès qu'il y aura une beaufrie, on enverra ce petit fond musical. Merci. Petite info du matin, Tito.
C'est comme le descendant de D'Artagnan qui a fait voyager ses oies et ses canards, 300 000 oies. Mais par contre, pour les faire brûler, c'est pas à cause de la grippe aviaire. Donc chacun fait voyager ses oiseaux comme il peut.
Non mais qu'est-ce que vous racontez ?
C'est pas drôle du
tout. C'est vrai que
c'était il y a un mois, on était obligé de brûler tous nos oiseaux dans le Gers.
Mais c'est hyper grave.
Et vous m'avez dit que tous les élevages du Gers d'oies et de canards ont dû être tués. Alors, et dans le Lot-et-Garonne ?
Et dans le Lot-et-Garonne, non, parce que c'est à côté, donc ça ne concernait pas.
Pourquoi tu dis ?
Mais parce que c'est pas les faucons, il y a des oiseaux qui voyagent et qui transportent la grippe aviaire.
Voilà, dans les élevages.
Donc les Saoudiens dans un avion. Oui. Et les Gersois,
il vaut mieux les mettre dans un avion comme
ne
ça.
Ne stigmatisez pas, n'opposez pas les populations.
Oui. Edouard, posez-moi la question. Qu'est-ce qu'il y a de magnifique aujourd'hui ?
Qu'est-ce qu'il y a de magnifique aujourd'hui ?
La Chandeleur ! On va pouvoir faire des.
Ah c'est quand ?
C'est aujourd'hui !
Mais non, c'est vrai ?
Ben oui !
C'est aujourd'hui.
Alors, c'est la Chandeleur. Alors, j'ai la bonne petite recette pour éviter les grumeaux.
Oui.
Alors pour éviter.
Pour faire des crêpes à la maison.
Vous faites des crêpes à la. Alors vous êtes chez vous. Ah, tiens, je suis chez moi.
Mais qui parle comme ça?
Hein?
Qui parle avec ce ton-là?
La ménagère
de moins de 50 ans.
Alors le frigo.
Et celle-là, elle a plus de 50 ans.
Ah, bah là, j'ai des œufs, du lait, tout ça et tout. Donc, voilà, c'est mal joué.
Mais non, c'est bien, je l'ai vu.
Alors elle prend un bro.
Donc les femmes à la cuisine et les hommes, c'est bien, allons-y.
Alors elle prend un bro, elle met 50 grammes de farine.
Alors on note.
Voilà, un demi-litre de lait et il faut mettre le lait doucement et battre en même temps pour pas avoir les grumeaux. Mm-hmm. Voilà, on rajoute 2 œufs, un petit peu de sucre vanillé.
Quel est le truc pour pas avoir les grumeaux?
Le mettre doucement en battant.
Ah,
pas le mettre d'un coup en disant ouais, tu es rapide, ancien, voilà, la hussarde. Non, doucement, clac, clac, clac. Il prend une petite pièce d'or dans la main pour les faire sauter.
Petite pièce d'or qu'on a tous.
On
l'a fait sauter. Et pourquoi? Et ça porte bonheur après?
Oui, ça porte bonheur. Et surtout, la crêpe ne retombe. Elle retombe souvent dans la poêle. C'est la bonne petite recette miracle.
Et les enfants sont contents.
Ah, les enfants courent après les crêpes. Des fois, les prennent dans la gueule ou alors glissent dessus. C'est un bon moment de vie à partager, de rigolade. Et puis, en plus, c'est le plat du pauvre.
Pourquoi? La crêpe? Non, on dit ça de plein de choses. La patate, la soupe au pain.
La soupe au pain, d'accord.
Qu'est-ce que vous avez,
c'est fascinant.
Thierry?
J'ai le Tinder.
Moi, je n'ai rien.
Déjà, apprendre à dire le mot télégraphe.
Viens avec nous, Bastien, de l'autre côté de la vie.
Moi, j'ai un Tinder pour orang-outans. C'est très sérieux. Ça se passe aux Pays-Bas. Faut savoir que c'est compliqué de faire procréer des orang-outans. Du coup, il y a des programmes.
Je ne suis pas risqué. Oui.
Ouais. Du coup, il y a des programmes de procréation. Et aux Pays-Bas, il y a un zoo qui s'est qui a testé un truc à base de tablettes tactiles. Et donc, l'orang-outan arrive. Il regarde les photos. Il sélectionne. Et puis, il faut appuyer sur un bouton. Donc, il est soit en colère, soit content. Soit rageux, soit enfin voilà quoi. Et donc il sélectionne sa partenaire comme ça, de cette manière-là. Bon, ça a fonctionné jusqu'au moment où une certaine Samboja, qui est une guenon en l'occurrence, manifestement peu charmée par ses prétendants, elle a démoli la tablette. Bon, du coup ils ont arrêté l'opération pour l'instant, mais ils vont la reprendre très très rapidement. Ça marchait au début.
Pourquoi ils ne veulent pas se rencontrer, les orang-outans, sinon?
On ne sait pas, on l'explique pas, mais ça arrive souvent qu'un animal soit délogé de son zoo et qu'il rejoigne un autre zoo pour une partenaire, et finalement il rejoint son zoo d'origine sans s'être accouplé.
Vous étiez en captivité, vous n'étiez pas non plus dans des humeurs d'accouplement.
Non, j'avais pas du tout envie de rencontrer des gens.
Très bien. Marie, vous avez quoi ce matin? Avant votre, je rappelle, la grande revue de presse de Marie Missé, vers 8h15, mais en attendant, vous nous faites l'amitié d'être là.
En attendant, j'ai du bonheur. Alors déjà, j'étais hyper contente la dernière fois quand on a reçu Monsieur Le Joyeux pour parler de bonheur.
C'est vrai.
Docteur Le Joyeux.
Le docteur Le Joyeux qui est spécialiste du bonheur.
Et ça déjà, je trouve ça super. Et ce matin...
Tandis que Atmen Ducon est spécialiste. Bon, d'accord.
De la connerie.
Merci, je l'ai mérité. Merci. Armel m'envoie
un café Calva, j'arrive et je lui dis.
Pardon, Marie. Ce matin, j'ai découvert que Monsieur Rapoport avait encore rendu un rapport. C'est un mec qui n'arrête pas de rendre des rapports. Là, c'est sur les VTC. Il veut que les mecs de Uber soient mieux payés. Mais il s'appelle Monsieur Rapoport et je trouve ça super.
Très bien. Vous avez d'autres indices sur des gens qui ont un nom prédestiné?
Anne Brochet.
Mais non, parce qu'elle n'est pas poissonnière, elle est actrice. Donc c'est un mauvais exemple. Autre chose, Tito?
Il y avait Alain Poisson qui s'occupe de truites, je sais pas.
Oui, Alain Poisson.
Qui s'occupe de truites, on le salue.
Non, c'est tout ce que vous avez noté ce matin.
Non. Moi, j'ai vu un très joli documentaire sur France 5 hier portant donc sur 3 enfants anglais, Sacha, Amaya et Greg, voilà, c'est leur prénom, qui, suite à de graves incidents climatiques qui ont touché leur pays, ont réussi à sauver la période estivale de la morosité, liée à ces mêmes événements. Hein.
Ouais.
En effet, ils ont réussi sous une fausse identité à déceler la source du problème, et c'est là qu'ils ont découvert qu'en réalité une sorcière qui s'appelle Sorceline s'amusait à fabriquer des nuages afin de cacher le soleil et ainsi nuire aux habitants de la ville. Voilà. Mais c'était compter donc sur Yo-Yo, pas... Bibou et Glu-Glu, parce que c'est comme ça qu'ils sont appelés, qui selon leur devise, nous les soucis on les règle la nuit.
Christophe,
voilà. Ils ont combattu. Oui.
C'est pas sur la 5, c'est sur Gulli.
Non, c'est sur France 5, c'est dans les Zouzous.
C'est dans les zouzous et ça n'est pas un documentaire. C'est les pyjamas.
C'est les pyjamasques.
Au-delà de 5 ans, c'est interdit.
Ah non, parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est con.
Sors.
Pardon. Je vais.
Suite.
Non, je m'en vais.
7h, 9h, plus près de toi. 7h, 9h, Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
Hier, on a essayé de fourguer de la pub à d'autres radios. Ça, visiblement, il en reste encore beaucoup. Hein. Oui. Alors, vous savez, Jean-Christophe Averty, vous connaissez Atmen ?
Oui, je connais.
Précurseur de la télévision, grand inventeur d'images, d'idées, c'est vraiment l'un des créateurs de la télévision moderne. Il y a un très beau documentaire qui lui rend hommage, qui passe demain soir sur France 3 à 20h55. Il y a deux réalisateurs, ça s'appelle Les Trésors Cachés des Variétés, Jean-Christophe Averty. Ça a été co-réalisé par Mireille Dumas et Philippe Rouget. Nous les avons appelés tous les deux, ils n'habitent pas ensemble. Bonjour Mireille Dumas.
Je vous confirme, bonjour, nous n'habitons pas ensemble. Mais nous avons cohabité et passé de longues nuits de montage ensemble.
Ah, cette voix, Mireille Dumas, qu'est-ce qu'on l'a entendue dans notre vie dire alors, allez-y, dites-moi tout. C'est extraordinaire, j'ai envie de vous poser des questions extrêmement intimes, Mireille Dumas.
Ne vous gênez pas.
Et de l'autre côté, dans son appartement à lui, Philippe Rouget, le co-réalisateur. Philippe, bonjour.
Bonjour, bonjour. Oh, je suis très content d'être là.
Vous posez des questions moins intimes.
Oui, non, c'est sûr que moi.
Philippe, qu'est-ce qui vous a... Pourquoi tout à coup Jean-Christophe Averty ? Qu'est-ce qui vous a intéressé cette année ? Pourquoi vous avez dit « il est temps de rendre hommage à ce grand maître » ?
Bah, pour moi, parce que c'était... Quand on a décidé avec Mireille Dumas de faire un film sur Averty, c'était parce que c'était évident. Averty avait vu juste... Il avait vu juste... Avant tout le monde, il fallait faire différent. Il savait que dans les médias, il fallait faire différent, il fallait secouer le public. Et pour ça, je trouve qu'il ressemble à une personne que vous avez bien connue et que j'ai un tout petit peu connue, qui est Jean-François Bizot. C'est Nova aussi, c'est une radio qui est différente.
Il y a un côté à l'Orson Welles aussi, quand Orson Welles avait fait sa fameuse guerre des mondes à la radio, les gens avaient eu peur, ont cru vraiment que le monde était envahi par des extraterrestres. Les premières images d'Averty, les fameuses images de bébés passés à la moulinette, les gens étaient choqués. Il a commencé par du scandale, par de la provoque.
Oui, oui, pour lui, la provocation, il fallait absolument secouer le public, il fallait réveiller les gens. Pour lui, les gens avaient tendance à dormir, donc il fallait les secouer, il fallait absolument... les choquer, donc il y avait le professeur Choron, il y avait énormément de choses, il y a des spots, quoi, il y a des petits sketchs qui aujourd'hui ne pourraient plus passer.
Alors il y a des choses quand même, il y a des choses qui, c'était pas toujours mieux avant, cher Philippe Rouget. Il y a Boris Vian disait, les gens veulent voir des choses qu'ils ont déjà vues. Est-ce que vous croyez que c'est un des problèmes de la télévision, par exemple?
Mireille,
vous avez envie de réagir à ça? J'aime bien l'idée
c'est tout le problème. Les gens ont souvent envie d'une télévision qui soit un grand miroir et qu'on leur tende ce miroir. Et Jean-Christophe Averty, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est qu'on a découvert dans des archives, il crie, il éructe parce qu'il avait de grandes colères extraordinaires d'ailleurs et très médiatiques. Mais il crie contre justement les personnes qui n'aiment pas ces images parce qu'ils ne les ont pas vues. Et il dit, mais comment peut-on aimer des images, juste ne pas aimer des images que je crée, que l'on voit pour la première fois. Donc, oui. C'était franchement l'une de ses grandes colères.
Philippe ?
Parce qu'il imaginait, justement, parce qu'il transportait son imaginaire à la télévision. C'est ça qui est magnifique, d'ailleurs.
Philippe Rouget, vous faites des choses chez vous très bizarres avec des objets, vous créez un langage radio formidable, vous faites des choses avec des objets, peut-être que la morale réprouve, je ne sais pas, mais il se passe des choses chez vous, vous vous frottez, il y a du bizarre, j'aime beaucoup.
Non, je me frotte, mais non, si vous voulez...
Comment ça, il se frotte à distance sur Averty ?
Formidable, Averty.
Alors, dites donc, je ne savais pas qu'il y avait une puissance érotique à ce point.
Mireille Dumas reviendra sur la tenue dans laquelle vous êtes ce matin, juste après. Philippe Rouget, vous vouliez intervenir.
Il voulait faire des choses différentes. Il voulait vraiment apporter des choses que les gens n'avaient pas eu la chance de connaître. Hein. C'était vraiment... Lui, c'était une encyclopédie, Jean-Christophe Averty. Donc, il était curieux de tout. Il connaissait énormément de choses. Et donc, pour lui, il fallait absolument faire du différent. Il fallait absolument apporter du nouveau. Il ne fallait pas du tout être un miroir. Hein.
Oui, spécialiste de plein de choses. Spécialiste de Ubu, spécialiste du jazz. Ouais. Mais à partir de là, réinventant la culture... Pas pour reproduire, mais pour réinventer à chaque fois.
Oui, et puis alliant la culture, c'est ça qui est formidable. Mmh. Alliant la culture et le divertissement.
Pardon, Mireille ?
Il n'y a pas de genre secondaire. Donc.
Attendez, je crois entendre la voix de Mireille Dumas de l'autre côté du téléphone.
Oui.
Attendez, je vous prends en cabine particulière. Pardon, Philippe Rouget. Mireille
oui,
Dumas.
Oui, allez-y.
Mireille Dumas, vous riez chez vous ?
Mais oui, je ris et je vous disais, en riant, justement, qu'il adorait la télévision ludique. poétique, qui amène à penser, mais aussi à se divertir, et qu'il a lié brillamment la culture et le divertissement. Ray, voilà, tout ça en étant nu dans mon lit.
Je voudrais revenir sur cet aspect de la conversation, Mireille Dumas. Est-ce que quand on parle nu, est-ce que c'est un oubli de s'habiller? Est-ce que c'est un oubli de soi? Ou est-ce qu'il y a une vraie volonté de créer quelque chose chez l'auditeur, de créer un danger, de créer un désir?
Oui. Alors écoutez, il n'y a absolument aucune volonté, mais je dois vous l'avouer, je dors nue, toute nue. Oui, mais c'est peut-être pas mal finalement à dire à l'auditeur.
Est-ce que vous êtes habillée uniquement de cette cascade de cheveux qui a fait votre renommée télévisuelle, ou est-ce qu'il y a une petite goutte de parfum comme Marilyn Monroe sous vos deux oreilles charmantes et duveteuses?
Écoutez, j'hésite à continuer dans le romantisme, mais alors peut-être dès le matin, déjà des bigoudis pour ressembler à Stéphane Bern dès le matin, peut-être.
Êtes-vous femme à vous précipiter sous la douche dès que le réveil sonne, ou est-ce que vous êtes du genre à vous alanguir encore entre ces draps soyeux qui vous font un manteau de nuit?
Ah, mais évidemment, je m'alanguis dans ces draps soyeux avant de me précipiter dans la douche, évidemment.
Vous les avez aimés, les hommes, Mireille Dumas, ils vous l'ont bien rendu.
Qu'est-ce que vous en savez?
Je suis bodeur, je suis pute, j'imagine.
Est-ce que je les ai aimés ou est-ce qu'ils m'ont aimé?
Je pense que ça y a eu de très belles rencontres, Mireille Dumas. Aujourd'hui encore, si vous vous retournez, qu'y a-t-il dans la deuxième moitié de votre lit?
Écoutez, il y avait quelqu'un, effectivement, je pense que c'était mon mari, et je pense qu'en entendant ce...
Il est venu nous casser la gueule.
Il est parti dans une autre chambre.
127 avenue Ledru-Rollin, il sera reçu par Atmen Kilif, qui est maître en ping-pong.
On va parler un peu averti quand même, non? Parce que moi j'ai vu le truc...
C'est du averti, la conversation qui suit est encore... Philippe Rouget, il n'y avait pas moyen d'érotiser autant avec vous. En tout cas, c'est un magnifique documentaire qu'on a vu avec Atmen.
Oui, magnifique. Hein. C'est vraiment la télévision a failli être de l'art quand on voit ce truc-là, moi je vous le dis.
Il y a des
clips incroyables avec Montand dans les feuilles mortes, mais vraiment magnifiques, avec les trois feuilles en noir et blanc. Il y a des choses, il y a tout Mélodie Nelson avec Gainsbourg et Jane Birkin. Il a fait un film incroyable.
C'est demain soir à 20h55 sur France 3. On vous a appelé tous les deux pour que Atmen vous raconte votre film.
Voilà.
Merci.
Non mais regardez-le. Merci. Ça va changer la télé, hein, ce reportage.
Merci,
moi, je le
pense. À vous deux, Philippe Rouget, Mireille Dumas, pour le documentaire sur Jean-Christ Averti. Demain soir, 20h55 sur France 3.
Merci Edouard.
Au revoir. Merci Mireille. Au revoir. Merci Philippe.
Radio Nova.
Non, rien. Que tu non, mais tout va bien.
Il me fait des signes. Bonjour Thierry Paré.
Salut.
C'est pas l'heure du rappel des titres.
Mais tout à fait. François Fillon est soupçonné, c'est une nouvelle affaire dont on a déjà un petit peu parlé, il est soupçonné d'avoir touché plus de 750 000 euros de bénéfices depuis juin 2012 grâce à une société de conseil, sa société de conseil, 2F Conseil elle s'appelle. L'opacité de ses clients, son rôle dans le groupe qui conseille de nombreuses sociétés du CAC 40 sont notamment pointés du doigt par certains élus qui évoquent des soupçons de conflit d'intérêts. Et puis l'émission Envoyé spécial doit diffuser ce soir des extraits vidéo inédits et embarrassants d'une interview de l'épouse de François Fillon. Moi je n'ai jamais été l'assistante de mon mari et je ne me suis pas occupée de sa communication non plus. Ce sont deux phrases lourdes de conséquences évidemment au regard des événements de ces derniers jours que Pénélope Fillon a prononcées lors d'un entretien avec des journalistes britanniques à un célèbre quotidien britannique. C'était en mai 2007. EDF accentue sa politique de suppression d'emplois. Quelques 5000 postes devraient être supprimés dans les 3 ans. Rex Tillerson, en lieu et place de John Kerry, après une bataille acharnée, le Sénat américain a confirmé l'ancien PDG d'ExxonMobil au poste de secrétaire d'État. C'est donc le nouveau visage de la diplomatie américaine.
John Kerry nous manquera. Vous savez que c'était le cousin de Brice Lalonde. John Kerry, il parlait parfaitement français. Il était d'origine bretonne.
Le cousin de Brice Lalonde, le type des Verts, des années 80.
Oui, écolo français.
Ouais. Ah bah, on en connaît d'autres ou pas? Ok. Rex.
Pardon.
Opposant historique en République démocratique du Congo, leader de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi est mort à Bruxelles hier soir. Il avait 84 ans. Revenu au pouvoir après les législatives en décembre, les sociodémocrates roumains font déjà face à leur première manifestation, et pas des petites manifestations. 300 000 personnes ont défilé dans les rues de plusieurs villes roumaines hier, notamment Bucarest, la capitale, au cri de démission, voleur, traître, pour dénoncer un décret gouvernemental adopté en urgence destiné à alléger le code pénal pour les délits de corruption. Il y a un an, Un petit peu moins, c'était en avril. Des scientifiques brésiliens révélaient l'existence d'un récif corallien de 9500 km² au large du fleuve Amazon. Restait évidemment à prouver cette découverte incroyable. Et bien c'est fait, Greenpeace a dépêché un bateau sur place. Il y est en ce moment et ils en remontent des images et c'est assez incroyable. Il existe ce récif et il fait effectivement plus que 9500 km².
Vous avez vu le mec qui replante du corail, il y a un documentaire formidable. Il y a un Américain qui a réussi à replanter du corail.
Et ça marche ?
Oui.
Ok. L'équipe, l'Égypte, est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations et rencontrera en finale soit le Cameroun, soit le Ghana qui vont se rencontrer ce soir. Et puis les 16e de finale de la Coupe de France de football, le PSG a battu Rennes 4-0 à Rennes et puis Monaco a failli passer à la trappe face à Chambly. Monaco s'impose à 5-4, mais il y a eu 3 partout pendant un petit moment dans cette rencontre.
La CAN, Atmen, vous suivez ou pas ?
Oui, la CAN c'est génial, mais ça finit quand ? Parce que j'ai l'impression que c'est là depuis 2 mois.
Ça doit être ce week-end, je pense. Voilà, il y a deuxième demi-finale ce soir et après ce week-end.
Ça sera où Égypte-Ghana
qu'on a gagné handball et en Miss Univers cette année.
Ah oui, on est
mais
fort.
La CAN, on n'est pas inscrit. D'autres concours ou pas ?
Non, je crois pas.
Très bien, merci à tous, bravo. Écoutez, on est droit, on est bien, on est propre. J'ai les chiffres de la première demi-heure.
Alors,
plus d'auditeurs que de participants à l'émission.
Non, pour la première fois.
Pour la première fois. Tito.
Oui, c'est la météo.
Oui, c'est ça. Merci.
C'est la météo. Alors la météo, elle est sur le ton de la rencontre demain à Brest.
Ah oui, on est à Brest en direct demain. On est au Quartz. J'espère les auditeurs peuvent venir, non ?
Ah oui, je pense. Ben, j'en sais rien, mais j'imagine que oui. Hein.
Oh,
oui
Armel, oui, peut venir. Oui. Ouais. Lolaï, lolaï,
lolaï, alors aujourd'hui, dans l'ouest de la France, méfiez-vous pour demain, il va pleuvoir. Alors que dans le centre, il fera un peu nuageux. Et puis dans le sud, un petit peu de soleil qui viendra apparaître. Les températures sont... Alors pour Boulogne-sur-Mer, il pleut. À Paris, il risque de pleuvoir un petit peu. À Orléans, il pleuvra aussi. À Bourges aussi. Tandis qu'à Poitiers, il y aura un petit peu de vent. À Dijon et Grenoble et Nîmes, les nuages cacheront le soleil. Les températures sont à Paris entre 6 et 16, à Strasbourg entre 4 et 12, à Grenoble entre 8 et 14, à Marseille entre 12 et 15, à Bordeaux entre 8 et 17, à Nantes entre 10 et 13, à Tours entre 8 et 15 et à Brest entre 11 et 13.
Olé, Tito el Frances. Oh. Jack souvent dans la rue.
Bah, je prends la température au kiosque à journaux, c'est quand même la meilleure température du moment.
Ah, je l'aime beaucoup, c'est votre kiosque à Montreuil ?
Ah, c'est Fifi, ça peut
être. Ah, il est formidable.
On a sympathisé, ouais. Je connais son prénom maintenant, où les titres se croisent, assises, ligne Renault, les 75, sexe, exploration coquine, les titres de philosophie magazine sur l'obscurantisme qui revient. Et puis avec Fifi, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, il y a un titre qui peut résumer tous les titres aujourd'hui, c'est...
Alors, c'est la politique du ventre.
Politique du ventre.
Oui, développons.
Aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'y a plus d'hommes d'État dans ce pays.
Excusez-moi, Fifi, je remarque qu'à chaque fois que vous parlez au micro, vous êtes hyper sérieux. Alors que
moi, j'aime bien, il y a un côté... Je crois que vous mettez en réserve de la République, Fifi, Titi.
Bien sûr, je suis un sérieux, sinon je ne parlerai pas au micro.
Bien entendu.
Ce que je dois vous dire, c'est que dans ce pays, on n'a plus d'hommes sérieux. Les derniers dinosaures de ce pays, c'était un monsieur comme Jacques Delors, qui n'est plus de ce monde, du monde politique. C'est les seuls qui pensaient pour la nation... Aujourd'hui, tout ce qui passe, c'est le ventre. Il faut se remplir le ventre sans arrêt.
Monsieur,
sans arrêt, ça ne suffit pas.
Sans arrêt. Monsieur Fifi, bonjour.
Bonjour.
J'ai l'impression que votre prise de parole aujourd'hui n'est pas anodine. J'ai l'impression que comme François Baroin ou Xavier Bertrand demain, vous êtes en train peut-être d'annoncer quelque chose aux Françaises et aux Français qui ont été déçus par les hommes politiques en place.
Effectivement, c'est dans cette intention.
Oui.
Bon. Compte tenu de l'actualité, je suis obligé de parler de la...
Vous êtes obligé de sortir du bois et peut-être d'annoncer aux Françaises et aux Français, n'ayons pas peur des mots, une candidature.
Ah non.
Ah pardon.
Je ne trouve pas parce que
autant
je
pour
n'en
moi.
Trouve pas pour le moment. Je n'en trouve pas pour le moment.
Je parlais de la vôtre. Je parlais de la vôtre, monsieur.
Ah non.
Si vous vous sentez appelé par une force qui vous dépasse...
Ah ben, je me défends.
Non, mais est-ce que vous vous sentez prêt à prendre vos responsabilités, comme l'a dit par exemple François Bayrou ? Si on vient me chercher, j'irai.
Ah, bien évidemment. Et je suis à la hauteur de ce genre de responsabilité. J'en parle souvent aux clients. Hein. C'est pas parce que je suis un kiosquier que vous pouvez me prendre pour moins que rien.
Il n'en est pas question, monsieur. À aucun moment, je n'ai pensé à ça. Vous êtes prêt à recueillir les 500 signatures ou pas?
Si on me les donne, oui. Alors, quand on me voit, je crois qu'on ne me donne pas la signature. Hein.
Pourquoi?
J'en sais rien. À voir ma figure, directement, on ne me donne pas de signature.
Mais qu'est-ce qu'elle a, votre figure? Elle a l'air de...
Ce que je représente un peu, oui. C'est un kiosquier.
Ah ben, kiosquier, tout le monde, on a des métiers. Heureusement que tout le monde n'est pas fait pas de la politique d'une façon professionnelle. C'est bien, comme ça, vous gardez un métier qui vous permet d'être ancré dans le réel.
Dieu soit loué, oui. C'est une très bonne idée. Disons que chaque fois, je pense que je ne suis pas tellement bien là où je suis, parce que j'ai plus d'envergure que tous les autres.
Mais peut-être que vous distillez déjà chez vos clients une pensée, une morale, une énergie.
Bien évidemment, vous avez vu venir les choses. C'est ce que je fais tous les jours. J'essaie de leur montrer qu'il n'y a plus d'hommes d'État, il n'y a plus d'hommes de valeur. Par exemple, quand on cite tout le temps le général de Gaulle, tous ceux qui sont passés, on ne peut même pas les citer.
Alors, c'était mieux avant. Mais qu'est-ce qu'il y a à nouveau? Qu'est-ce que vous sentez comme vent d'espoir, monsieur Fifi? Parce que quand on se lance en politique, il faut donner de l'espoir.
Effectivement. Alors... ceux qui pouvaient donner de l'espoir ne sont plus là. On a de la jeunesse qui n'a que la politique du ventre. Alors, je me demande où est-ce qu'on va. Il faudrait encore des années. C'est comme les footballeurs. On trouve toujours un as un jour, mais il faut encore des années quand on perd ses as. C'est comme ça.
Bon, écoutez, pour le moment, je ne sens pas le vent d'espoir qui porterait votre candidature. On vous rappelle et je veux que vous nous donniez des choses qui nous fassent rêver, cher monsieur Fifi.
Bien évidemment, bon, j'essaierai la prochaine fois.
Très belle journée à vous. Salut, Jacques.
Vas-y, votez Fifi.
Oui, salut.
Et bonne nouvelle, Jacques Delors est vivant. Hein.
Jacques Delors est vivant.
Eh oui, il est vivant, monsieur.
Oui,
c'est une bonne nouvelle.
Oui, effectivement.
Vous l'avez donné pour mort.
Non,
non, non.
C'est comme politique. Le tiercé, on peut se tromper. Merci.
Plus vivant dans la politique.
7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me débecte.
Ah, la voix de Pat. Pat qui est là, qui est à Angers en ce moment, qui va nous rejoindre, qui est incarcéré à Angers. Cher Philippe Baumgartner, c'est pas n'importe qui.
C'est mon oncle.
Hein?
Philippe Baumgartner, c'est mon oncle. Vous m'avez appelé Philippe.
Ah oui, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. C'est très étonnant de se tromper de prénom.
Moi, je salue mon oncle au passage.
Ça doit être l'âge. Cher Thomas, face à vous, c'est pas n'importe qui nous a rejoint ce matin. Là, on a du lourd.
On a du lourd.
C'est Monsieur Zribi.
Voilà, Thomas aussi.
Mais c'est pour ça.
Bonjour Thomas Zribi.
Bonjour Edouard Baer.
Oui, Thomas, vous êtes venu nous parler d'une chose. Il s'est passé, bon, on s'en est rendu compte il y a quelques jours, ce qu'on a appelé le Muslim Ban, donc les frontières fermées aux ressortissants de certains pays, les frontières américaines par Donald Trump. Et Thomas, ça vous a rappelé quelque chose. Enfin, disons qu'il y a comme un écho de l'histoire. Et vous allez nous raconter cet écho-là.
Ben oui, il y a eu beaucoup de réactions qu'on a suivies, mais il y en a eu une qui m'a marqué particulièrement. Ça s'est passé aux États-Unis. C'est l'histoire d'un compte Twitter éphémère qui a été créé le 27 janvier au matin, c'est-à-dire vendredi dernier, et qui a cessé d'émettre, de publier le lendemain, le 27 janvier. C'était une date importante pour deux raisons. Déjà, c'était la journée de commémoration aux États-Unis de la Shoah, et c'est ce jour précis qu'avait choisi Donald Trump, sans doute par hasard, pour signer donc son fameux décret anti-immigration, le Muslim Ban, comme on l'a surnommé, parce qu'il consiste à fermer les frontières aux ressortissants de 7 pays musulmans, dont des pays en guerre, le Yémen, la Libye, la Syrie et l'Irak. Ce jour-là donc, le 27 janvier, deux hommes, un professeur et un rabbin, ont créé ce compte Twitter qui s'appelle Saint-Louis Manifest, en anglais, c'est plus difficile à prononcer. Et toutes les 5 minutes, ils publient un nouveau tweet, toujours sur le même modèle. Le tout premier, je vous le lis en français... Je m'appelle Herbert Asher. Les États-Unis m'ont refoulé à la frontière en 1939. J'ai été tué à Auschwitz. Toutes les 5 minutes donc, un nouveau nom, parfois une photo, et toujours la même histoire. J'ai été refoulé à la frontière américaine en 1939 et j'ai été tué à Auschwitz. En tout, 254 noms sont publiés sur le compte.
Oui, donc c'est ça l'écho de l'histoire dont on parlait à l'instant, l'écho de l'histoire d'un navire qui a fait le voyage atlantique.
Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'un bateau qui a pris la mer en 1939, qui est parti d'Allemagne, direction l'Amérique, avec 937 passagers à bord. Il y avait des hommes, des femmes, des vieux, des enfants, presque tous des juifs d'Allemagne et d'Europe de l'Est qui fuyaient les nazis. Tout ça se passe quelques mois après la nuit de cristal et ils ont peur à juste titre pour leur vie. Après plusieurs jours de traversée, ils arrivent à Cuba où ils ont obtenu, avant leur départ, l'autorisation de faire escale. Sauf que pendant le voyage, les règles politiques à Cuba ont changé et on leur refuse de débarquer. Il y a seulement 28 personnes qui ont le droit de descendre du bateau grâce à des visas particuliers, des visas en règle, mais les autres doivent reprendre la mer. Le bateau va donc tenter sa chance dans le pays voisin, les États-Unis. À l'époque, aux États-Unis, il y a des quotas très stricts d'immigrés européens. L'opinion publique n'a pas envie de s'encombrer avec des migrants pauvres, d'une autre religion que la majorité de la population. Des élections approchent. Bref, Roosevelt, le président, reste ferme. Il interdit aux bateaux d'accoster. Jusqu'ici, toute ressemblance avec l'actualité américaine n'est absolument pas fortuite. C'est exactement l'intention de ceux qui écrivent ces tweets vendredi dernier. La suite de l'histoire, pas le choix, donc. Le bateau Saint-Louis est obligé de repartir vers l'Europe, là précisément où les passagers sont menacés de mort. Certains obtiennent un visa pour la Grande-Bretagne, mais les autres sont obligés de débarquer dans des pays qui seront très rapidement envahis par les nazis, les Pays-Bas, la Belgique et la France. En tout, 254 passagers du Saint-Louis sur les 937 seront exterminés en camp de concentration.
Oui, alors Thomas Riby, il faut faire attention aux comparaisons dans l'histoire, c'est ce que disent les historiens. Est-ce que là, il y a matière à comparaison entre cette période, ce bateau, cette histoire de bateau qui est relatée donc sur ce compte Twitter dont vous parliez en 1939 et ce qui se passe aujourd'hui avec le Muslim Ban décidé par Trump qui n'a pas grand-chose à voir avec Roosevelt a priori.
Oui, clairement. C'est vrai que c'est lourd les comparaisons systématiques avec la Seconde Guerre mondiale, le point Godwin. Mais cette comparaison, je pense qu'elle est un petit peu plus juste que souvent. Parce qu'il y a un certain nombre de points communs. Alors certes, les musulmans chassés des États-Unis ne sont pas victimes de génocide, comme les passagers du Saint-Louis, mais tout de même, beaucoup risquent leur vie. Ils fuient des pays en guerre. Et puis, il y a des histoires effrayantes qui ont été racontées cette semaine dans la presse internationale. Par exemple, celle de cet Irakien qui s'appelle Fouad Sharef. C'est un ancien salarié d'une ONG américaine dans son pays et qui avait obtenu, après des années d'attente, des papiers pour lui et toute sa famille afin de rejoindre les États-Unis. En Irak, les gens comme lui, on les appelle les traîtres. Il y en a eu à peu près 150 000 qui ont travaillé pendant la présence américaine et qui ont été laissés sur place après leur départ en 2011. Ils sont menacés de mort sur place. Beaucoup ont déjà été assassinés. Donc, Fouad Sharef avait vendu toutes ses affaires. Il avait vendu sa maison. Sa femme et lui avaient quitté leur emploi. Ils avaient sorti leurs enfants de l'école. Et samedi dernier, ils ont pris un vol vers les États-Unis avec une escale au Caire, en Égypte. Et là-bas, on leur a expliqué, comme aux passagers du Saint-Louis en leur temps, que les lois avaient changé pendant le voyage et qu'ils ne pouvaient pas embarquer vers les États-Unis. La famille a donc été obligée de retourner en Irak, où elle ne possède plus rien et où elle risque toujours sa vie. Et là, je pense que les deux histoires se ressemblent beaucoup. On espère que celle-ci, avec l'expérience que l'on connaît du Saint-Louis et de ses passagers, se terminera moins mal.
Voilà, Thomas Zribi. Est-ce que le compte Twitter est toujours ouvert, celui dont vous parliez au départ?
Il est toujours visible, mais il n'y a plus aucun tweet qui est publié.
Voilà, ce compte Twitter, c'est le Saint-Louis Manifeste. Voilà. Juste un détail pour terminer. Justement, ce lien entre l'histoire et l'actualité, on développe ça sur Noval dimanche à 18h depuis il y a 10 jours. C'est Jean-Christophe Piau, ça s'appelle « Tu parles d'une histoire ». Voilà, pour nous apprendre un peu ce qui pourrait peut-être arriver.
Merci les deux, Thomas. Avec joie.
Clinton, Fearon sur Nova, c'était Blame Game. En l'absence d'Edouard Baird qui est parti faire un petit tour, est-ce qu'on n'écouterait pas un peu de pub?
Un petit peu de pub, pas de pain comme
ça
disait l'autre.
Ça te dit?
Oui, ça me dit. En attendant l'enfant.
7h, 9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
T'as déjà été à combien d'anniversaires cette année de copains de classe?
Je sais pas. Je crois. Ah,
et tu fais des cadeaux dans ces cas-là?
Oui.
Bon. On est avec Hector, là. Hector qui a 7 ans.
Oui.
Et tu me disais, Hector, que toi tu fais des percus.
Oui.
Et t'as quoi alors? De quoi tu joues?
Un peu de tout.
Ouais. Par exemple, t'as quoi à la maison?
J'ai une caisse claire, un tombasse, des timbales. J'ai un triangle.
Et parfois, il y a des petites lettres des voisins qui disent merci Hector d'avoir bien joué de la caisse claire toute la nuit.
Non, parce qu'en fait, je ne joue pas toute la nuit. J'en joue souvent, j'en joue un peu tous les matins.
Le matin, et tu les connais tes voisins du dessous de l'immeuble ou du dessus?
Oui, du dessus, parce que moi je suis au premier étage, ouais. Donc en fait j'en ai pas vraiment en dessous. Ouais.
Et au-dessus, ils ont des enfants aussi?
Oui, il y en a beaucoup qui ont des enfants, je crois qu'ils ont tous des enfants.
Mais ils ont jamais sonné, genre pour dire qu'est-ce qui se passe?
Ben non, parce que en fait, ils ont l'habitude. Parce que aussi au-dessus de nous, il y a quelqu'un. On a un voisin qui joue du trombone, je crois.
Oui, donc au bout d'un moment, ils ont renoncé, quoi. Tu crois qu'ils se mettent des boules caisses ou ils sont contents qu'il y ait de la musique?
Bah, on sait pas trop parce qu'ils nous ont jamais parlé de ça.
Bon, alors ça se passe bien dans l'immeuble, quoi. Bon, alors ça, c'est chouette. Et là, tu vas nous dire un poème.
Oui.
C'est un poème de l'école ou c'est un poème pour toi dans la vie?
C'est un poème de l'école.
Mais tu l'aimes bien parce que tu as envie de le redire quand même.
Bah oui.
Ça s'appelle La Grenouille. Bah, on l'écoute, mon vieux.
La grenouille. Aujourd'hui, la grenouille est rentrée bredouille. Dans la journée, elle fait des fouilles pour trouver un peu de nouilles ou un petit bout de citrouille. Et le soir, comme son ventre gargouille, elle sort de son trou malgré sa trouille. Mais dans le noir, elle cafouille, se cogne le pied, aïe, ouille, et tombe à l'eau. Hé, ça mouille. Heureusement, c'est une grenouille. François Héricourt.
C'est très bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce poème?
Bah, les rimes en ouille.
Ah, t'aimes bien les rimes en ouille? Mais tu sais, tu peux en faire des rimes en ouille, hein. J'ai des osselets dans les fouilles. Tiens, ce morceau de fer est fatigué, il rouille. Tu pourrais travailler, tu pourrais, je suis sûr, faire un aussi beau poème que François Héricourt, qui a l'air très sympa. Mais non, tu crois pas?
Bah, je sais pas.
Tu vas écrire des poèmes, tu crois, plus tard ou pas?
Bah, je sais pas non plus.
Par exemple, là, il y a le monsieur en face de toi, il s'appelle Atmen.
Bonjour.
On pourrait faire un poème avec des rimes en haine, non? Qu'est-ce qui s'amène? C'est Atmen. C'est un roi, c'est pas une reine.
Voilà.
Il est un peu à la traîne.
Oui.
Tu vois, c'est assez facile.
Si ce poème est là pour m'humilier,
excusez-moi, pardon. Mais écoute, on te laisse aller à l'école, mon vieux Hector. On a passé un bon moment,
oui,
non?
Très bien joué, le aïe, ouille, tout ça. Moi, j'ai trouvé que je lui donne une petite note 10. Voilà.
Oui.
Tonton mayonnaise.
Eh bien, je te fais un bisou.
Bravo.
Salut, mon vieux. Tu veux dire un truc aux auditeurs qui t'écoutent?
Au revoir.
Eh bien, voilà.
Et bonnes vacances.
8h01. Thierry. Pareil.
Radio Nova.
Alors, je discutais il y a quelques minutes avec un collègue dont je tairai le nom par souci d'anonymat de l'affaire Fillon. Et il me disait que lorsqu'on en est à dire qu'on sera candidat à la présidentielle, malgré toutes les affaires du moment, ce sont généralement les dernières cartouches, la dernière carte du candidat concerné. Bon, quoi qu'il en soit, François Fillon et sa femme n'auront jamais été aussi dans la tourmente qu'en ce moment, et la descente aux enfers n'est peut-être pas terminée. François Fillon est soupçonné d'avoir touché plus de 750 000 euros de bénéfices depuis juin 2012 grâce à sa société 2F Conseil. L'opacité de ses clients et son rôle dans cette société qui conseille de nombreuses sociétés du CAC 40 sont notamment pointées du doigt par certains élus qui évoquent des soupçons de conflits d'intérêts. Et puis l'émission Envoyée spéciale doit diffuser ce soir des extraits vidéo inédits et embarrassants d'une interview de l'épouse de François Fillon. Moi, je n'ai jamais été l'assistante de mon mari et je ne me suis pas occupée de sa communication non plus. Ce sont deux phrases lourdes, évidemment, de conséquences au regard des événements de ces derniers jours que Pénélope Fillon a prononcées lors d'un entretien avec des journalistes britanniques. C'était en mai 2007. EDF accentue sa politique de suppression d'emplois. 5000 postes devraient être supprimés dans les 3 ans. Rex Tillerson, en lieu et place de John Kerry, après une bataille acharnée, le Sénat américain a confirmé l'ancien PDG d'ExxonMobil au poste de secrétaire d'État par 56 voix contre 43. L'industriel texan de 64 ans devient ainsi le visage de la diplomatie américaine. Opposant historique en République démocratique du Congo, leader de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi est mort à Bruxelles hier soir. Il avait 84 ans. Revenu au pouvoir après des législatives en décembre, les sociaux démocrates roumains font déjà face à leur première manifestation, des grosses manifs. 300 000 personnes ont défilé dans plusieurs communes roumaines hier, notamment dans les rues de Bucarest, la capitale, au cri de démission, voleurs, traîtres, pour dénoncer un décret gouvernemental adopté en urgence destiné à alléger le code pénal pour les délits de corruption.
C'est pas facile de mettre 300 000 personnes dans la rue en Roumanie. Hein.
Bah surtout.
Moi j'ai essayé, c'est fou.
Ouais.
C'est un boulot. Pardon.
Surtout 2 mois après avoir été élu.
Ah
c'est une belle performance.
J'ai essayé aussi.
Il y a un an, un petit peu moins, en avril, des scientifiques brésiliens révélaient l'existence d'un récif corallien de 9500 km² au large du fleuve Amazon. Restait à prouver cette découverte incroyable. Et bien Greenpeace l'a fait. Greenpeace a dépêché un bateau sur place qui est en train de remonter en ce moment les premières images de ce récif. Et effectivement, il existe et il fait bien 9500 km², même un peu plus.
J'aime bien. C'est vraiment vos sujets. Ça me plaît parce que vous aimez bien la nature, vous aimez les aventuriers, vous aimez tout ça. C'est ça qui qui vous donne ses yeux d'enfant.
Le recours aux produits phytosanitaires, insecticides, fongicides, herbicides a connu en France un léger recul entre 2014 et 2015, marquant une baisse pour la première fois depuis 2009. Alors pour autant, ce sont des chiffres en trompe-l'œil. Hein. Cette inflexion ne suffit pas à enrayer la tendance de fond à l'utilisation massive de pesticides dans l'Hexagone, l'un des plus gros consommateurs de ces substances en Europe. L'Égypte est en finale.
Il faut rappeler mon petit Michel Leb qui faisait la pub pour Bégon jaune et Bégon vert. Si on le remet là, ça va revenir le cron 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 crac crac.
C'est important de l'avoir signalé.
L'Égypte est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Égyptiens qui l'ont gagné déjà 7 fois, je crois. Hein. C'est énorme avec leur vieux gardien. Il a 44 ans, c'est vieux pour un gardien. Ils rencontreront les Égyptiens, soit le Cameroun, soit le Ghana. Le Cameroun et le Ghana vont se rencontrer ce soir. C'est la deuxième demi-finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, les 16e de finale de la Coupe de France de football. Le PSG a battu Rennes 4-0 à Rennes. Et Monaco s'en sort plutôt bien. Hein. Il s'impose 5-4 face à Chambly. C'était à Chambly, mais il y a eu longtemps 3 partout.
Merci. Qu'est-ce qu'il fait Michel Leb ce matin, vous croyez?
Je pense qu'il fait des ablutions.
Il est 8h04, vous croyez qu'il est debout?
Il est debout.
Il va bien, vous voilà. Pensez? Parfois, il y a des gens qui se disent, mais
il travaille peut-être.
Il met ses lunettes à un moment donné.
Il répète des imitations.
Il met ses lunettes à un moment donné.
Oui, d'accord. Oui, voilà. Voilà. Et dites-moi, Tito, parce qu'on va pas refaire la météo, on l'a eu tout à l'heure, la météo flamenco. Mais dites-moi. Mais parce que normalement, vous êtes notre correspondant Aquitaine. Si vous êtes tout le temps à Paris, ça décrédibilise un petit peu votre positionnement régional.
Oui, mais mon cœur est là-bas.
Oui.
Donc je suis moitié en Aquitaine et moitié à Paris.
D'accord. Vous êtes toujours sur le lac d'Ourthe, votre cabane?
Toujours. J'ai ma cabane sur le lac d'Ourthe, mon petit bateau. Fin...
Mais quand vous n'y êtes pas, vous la prêtez? Vous avez un cadenas?
Voilà. Alors j'ai mon voisin qui a les clés et mes amis m'appellent et me disent « Ah, salut, on va chez toi ce week-end ». Puis je dis « Ben ouais, ben allez-y ».
Je ne sais pas, vous aviez un bateau?
Ouais, j'ai un petit bateau. Hein.
À moteur, à voile, oui, alors, à pied?
Le bateau à moteur, elle est sortie. Ouais, une petite barque là, pour faire l'andouille.
Et faire l'andouille et la pêche?
Oui, tout à fait, pour la pêche. Ouais.
Vous pêchez quoi?
Alors on pêche le carnassier, le brochet, la perche, le cendre, le black bass. Enfin, on pêche tout ce qu'il y a, parce que c'est le plus grand lac de France, c'est le lac d'Ourthe. Donc c'est immense et c'est tellement beau qu'on y passe son temps dessus.
D'accord, ça me va, merci. Attendez, je suis avec Jacques Souvent, j'essaie d'écouter.
Au-dessus sur la droite, le lecteur de garde d'enquête. Au-dessus sur la gauche, la sortie du ski.
Qui est cette dame, Jacques Souvent?
La sortie de Pignel.
Bah, vous m'avez demandé 2 bars et des coquilles Saint-Jacques, faut que je prenne de l'argent pour le marché, là.
Ah, donc là, c'est la voix du distributeur d'argent?
Oui, il y avait une petite prise casque, alors j'ai branché la prise casque.
Mais la dame, c'est une voix de robot? Vous pensez qu'il y a une comédienne qui est allée enregistrer pour la voix bancaire?
J'ai demandé à une amie, mais là, j'ai l'impression que j'ai tout bugué, là. Ah non, le code confidentiel.
Vous êtes où? Dans Paris, là?
Je suis avenue de Paris.
À Montreuil?
Oui, à Montreuil. J'ai décidé de rester à Montreuil ce matin.
Arrêtez de m'engueuler, mon vieux, hein. Parce que j'en sais long sur vous, je pourrais vous faire tomber. Pénélope Fillon, elle n'a pas été gentille avec moi. Regardez ce que je viens de sortir.
Bon, je prends 2 bars, c'est ça?
On vous dérange?
Non, c'est que je suis hyper concentré, mais...
Mais vous tirez de l'argent, là, vous faites quoi, Jacques?
Bah oui, je tire de l'argent.
Mais c'est quoi votre code? Rappelez-moi votre code, j'ai oublié.
Il veut pas me rendre ma carte, là, pareil.
Donc le seul humain que vous ayez trouvé à qui parler, c'est un robot de distributeur automatique?
Bah oui.
Il est où, mon grand Jacques Souvent, le grand humain?
Le grand humain.
Le oumfa oumfé.
Avec les machines, je... Donc là, je suis très embêté. Je ne vais pas pouvoir rencontrer ni de l'humain, ni du rôti, ni du bar.
Quel est l'apport pour l'auditeur de cette conversation?
Vous allez nous le dire.
On vous embrasse.
À toutes. J'essaie de récupérer ma carte. Hein.
Quel est l'apport? Quelle émotion? Quelle intelligence? Quelle réflexion a été amenée par cette conversation? Qu'on peut parler à des robots, que les robots nous répondent, que les machines parlent, que les machines pensent. Il paraît qu'aujourd'hui, on peut être battu au poker par des machines. Quelle idée aussi de jouer au poker.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
On en est où ce matin? On va parler d'un livre génial sur Daniel Toscan-Duplantier, une sorte de grand personnage du cinéma contemporain mort il y a quelques années. Le nabab du cinéma, le livre s'appelle Toscan. On devait être avec Jérôme Commandeur, vous savez, mais je crois qu'il est venu parce qu'il présente les Césars. Mais c'est pas le mec d'Europe 1, soyez pas comme ça.
C'est l'acteur, le comique, le présentateur des Césars.
Il prépare les Césars, je l'appelle juste voir pourquoi il est pas venu ici, parce que peut-être qu'il a... il travaille sur les Césars. Attendez, comment je peux appeler ça? Attendez, j'appelle juste voir pourquoi est-ce qu'il... ce qu'il fait à cette heure-là. C'est mon petit portable, parce que j'ai un téléphone sans fil, je vous expliquerai comment ça marche. Et puis Marie Missé se met en place
et de la
pour préparer. Ça sonne chez Jérôme Commandeur, mais qu'est-ce qu'il... c'est des gens quand même, c'est des métiers à 8h10, les gens répondent. Allô?
Bonjour, je ne peux pas vous répondre. Oui, bah... c'est votre message après le signal sonore.
Je ne trouve pas ça très... oui. C'est là que je parle?
Oui.
Les gens de 80 ans, ils disent ça.
C'est peut-être lui derrière.
Les gens de 80 ans, ils disent, c'est là,
c'est là qu'il faut parler.
Dis donc, tu devais venir, toi. Alors, tu vas venir? Oui, on va te rappeler.
C'est comme ça pour les Césars, il y aura du monde.
Il y aura du monde. Alors, Christophe Méné, vous avez bien parlé pour le moment?
Oui, ça va.
Parce que j'ai du courrier.
Oui, oui.
J'ai une lettre ce matin qui est partie il y a deux jours. Dit, pourquoi on n'entend pas assez Christophe Méné?
Bah parce que j'ai pas forcément des choses à dire.
Voilà,
déjà.
Mais là on vous a entendu parce que les gens vous aiment beaucoup.
Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir.
Pas vous, toi.
Ça,
je savais. Baba commandant. Alors c'est le, on a mettez le petit jiggle si vous permettez de Marie.
C'est qu'elle dit qu'elle travaille pas, qu'elle fait que lire le journal. La revue de presse de Marie Missé.
Allez, bonjour. Tous ces fanzous sont là, c'est Marie Missé.
Marie Missé.
Oui, Marie.
Merci. La revue de presse aujourd'hui est réservée. Tout comme Jérôme
Attendez, parce
qu'il n'est pas
venu. Il y a Nicolas qui veut vous filmer, il vient d'arriver
bien,
en retard.
Alors,
prenez le bon axe.
Le
non, mais ne la prenez pas de profil, vous allez mettre ça sur le Facebook le de Nova. Mais
pas
au moins...
Jean-Pierre Monqui, monsieur.
Si, c'est Jean-Pierre Monqui. Mais faites-le regarder,
très
super,
bien,
regardez ses yeux-là. Et après, ça va sur Internet.
Ok,
sur Facebook ou tout ça. Alors, excusez-moi, c'est parti.
Aujourd'hui, donc, la revue de presse est réservée à l'accident, à la faille, au précipice, à la ligne brisée. Dans La Croix, ce matin, on peut lire le portrait de Jasminko Halilović, qui, un peu malgré lui, s'est spécialisé en enfance accidentée. En 1988, Jasminko naît. Il naît dans un Sarajevo en paix, une Yougoslavie multiethnique, un rêve qui s'effondre dans un conflit sanglant qu'il a observé, du coup, depuis son poste d'enfant. Et puis après, il a fait des études, il a fait du marketing, il a fondé des startups, il a beaucoup voyager. La guerre vécue petit ne l'avait apparemment pas cassé, sauf que il reste perturbé par la mémoire qu'il partage avec une génération tout entière qui a grandi dans le conflit et qui n'en parle jamais. Il finit par lancer le projet d'un livre où tous les enfants de ces années-là peuvent partager un souvenir en 160 lettres de l'enfance sous les bombes. Il reçoit par exemple ramasser des shrapnels qui sont des bouts d'obus ou d'armes, 4 ans sans eau ni électricité. Et quand le livre est publié, une déferlante de souvenirs de partout lui tombe dessus. Il dit « J'étais le seul pour communiquer avec tant de gens en même temps. Ça a été la chose la plus difficile dans ma vie à faire d'un point de vue émotionnel. » Avec tout ce qu'on lui a envoyé, il a créé, Jasminko, un musée de l'enfance en guerre. C'est à Sarajevo qu'il occupe 16 heures par jour ce musée depuis 5 ans maintenant et qui a peut-être vocation à voyager lui aussi. Un enfant qui grandit pendant un conflit agira de la même façon, dit-il, en Yougoslavie, au Japon et en Syrie. Avec le musée, nous célébrons la force de vie et la résilience des enfants. Les enfants pas tout à fait normaux, imparfaits, avec des coquilles et des bosses, c'est aussi ce qu'a mis Denis Grosdanovic sur la piste de son nouveau livre, dont on a déjà un petit peu parlé ici, chroniqué aujourd'hui dans le Figaro. C'est le génie de la bêtise, ce livre. Comme inspiration, il parle de son cousin Valentin, qu'il appelle un simple d'esprit.
Le titre du livre, c'est le génie de la bêtise.
Oui.
D'accord, oui, pardon.
Valentin, son cousin, c'est un simple d'esprit, c'est lui qui le dit, avec une grosse tête et un sourire ravi, qui, selon l'auteur, était relié par un fil magnétique aux poissons, sortait la nuit pour écouter les grenouilles faire monter la lune dans le ciel, apprivoisait des hérissons et des couleuvres, bref, avait un rapport différent au monde. J'avais l'impression qu'il y avait en lui, dit-il, un petit génie, une sorte de farfadet. C'est Denis donc Grosdanovic qui dit ça, une sagesse donc moins accessible selon lui aux esprits savants. Et c'est marrant parce que cette quête de l'imperfection qui crée le beau, de l'accident qui crée l'émotion, on la retrouve aujourd'hui dans le design et c'est Le Monde qui s'en fait le porte-parole. L'imperfection devient une valeur ajoutée, on fabrique des plats gondolés, des vases déjà éméchés, le charme est dans l'objet accidenté. Merci a par exemple repris des verres Duralex pour les fondre jusqu'à ce que Zéphère ait l'air complètement bourré. L'usure, la rouille, la brisure donnent de la vie. Le Monde cite à ce propos une tradition japonaise, un art très respecté, celui du kintsugi, ça veut dire jointure d'or. Kintsugi, donc, c'est de réparer les objets. L'objet réparé est encore plus précieux que celui qui a été brisé. Dans le futur, le terrain de jeu va s'agrandir grâce aux algorithmes qui va permettre d'introduire du chaotique un peu partout. C'est là-dessus que se termine l'article du Monde, du chaotique fabriqué. Donc, et ça rejoint un article de Vice Creators Project qui annonçait l'agonie de l'art numérique parce que trop gadget et trop parfait, sans accident et sans émotion. Et tout ceci m'a fait fait penser à un de mes livres préférés de Boris Vian, écrit sous le nom de Vernon Sullivan, et on tuera tous les affreux, dont le titre est déjà génial. Attention, spoil, et on tuera tous les affreux, ça raconte les expériences d'un savant fou qui ne veut créer que des gens beaux, trop beaux, alors il les enlève. Il enlève les plus beaux spécimens humains pour les faire vivre sur une île et se reproduire. Sur cette île, on s'ennuie ferme, on ne désire plus, jusqu'à ce qu'elle soit envahie. Guérilla moderne par une horde de gens laids, boiteux, déformés, différents. En les voyant, les humains parfaits de l'île de la beauté sent affluer une vague, une déferlante de désirs retrouvés. Et le tout se termine dans une partousse géante. Et on tuera tous les affreux, c'est Boris Vian.
Merci Marie-Missé, j'irai cracher sur vos tombes.
Sur ma tombe.
Non, c'est un autre Boris Vian. Toscan. Toscan, c'est aux éditions Séguier. C'est un portrait du légendaire producteur Daniel Toscan Duplantier. C'est un livre de Jean-Marie Le Squarnec. Bonjour Jean-Marie Le Squarnec.
Bonjour Edouard. Et ce n'est pas Jean-Marie, c'est Jean-Marc Le Squarnec. J'y tiens. Edouard.
Eh bien, je vais vous dire pourquoi. Je vais mettre mes lunettes et ça change absolument tout. Non mais c'est vrai, je viens de mettre mes lunettes pour lire, j'ai voulu faire le malin. Jean-Marc, excusez-moi, surtout que vous êtes quand même une signature de la Dépêche du Midi, une signature très connue. D'ailleurs, c'est étonnant que ça soit quelqu'un de cette région où Toscan avait une maison, où il aimait être, il était dans le Sud-Ouest. Est-ce que vous l'avez connu aussi par ce biais-là?
Tout à fait, j'avais été missionné en 1997 pour l'interviewer pour la Dépêche du Midi. C'était dans un moment difficile puisque quelques mois plus tôt, sa femme Sophie avait été assassinée en Irlande. Et j'y allais à la fois pour malheureusement lui parler de ça, enfin, lui poser des questions là-dessus et puis aussi bien sûr pour parler de cinéma. Et ce fut ma seule rencontre avec lui à la Cinémathèque de Toulouse dont il était le président.
Alors Toscan, comme on l'appelait, quelqu'un qui a vraiment durablement marqué le cinéma français, c'est une sorte, on peut le qualifier de dernier nabab du cinéma ?
Il a été nabab, on peut le dire, à l'époque de Gaumont, puisque à l'époque de Gaumont, entre 75 et 85, il pouvait déclencher n'importe quel projet d'envergure, réclamer beaucoup d'argent à son ami Nicolas Sédoux, qui était le patron de la Gaumont, pour donc offrir un tapis d'argent à Fellini ou à Bergman. Donc là, il était un nabab parce que la famille Schlumberger laissait un peu l'argent couler à flot, ce qui n'a pas duré longtemps. Ensuite, quand il a été producteur personnel avec son argent, c'était plus compliqué, c'était plus difficile de trouver de l'argent auprès des banquiers. Et là, nabab n'est plus exactement le bon qualificatif. C'était plutôt un artisan du cinéma toujours culturel.
Alors on dit nabab parce que c'est un personnage d'un panache rare, avec une sorte de charisme tout à fait étonnant. Il a été ensuite président d'Unifrance. Enfin, ça a été vraiment l'emblème du cinéma français. D'ailleurs, parfois moqué dans des sketchs à l'époque, les Inconnus se moquaient un peu de lui parce qu'il était, absolument incontournable. Atmen, vous avez lu le livre?
Moi, j'ai lu le livre. J'ai beaucoup aimé. Bon, toute sa première période d'étudiant et comment il arrive à devenir, à un moment donné, le grand patron de la Gaumont. Ce qui est super intéressant, votre biographie ressemble un petit peu à celle de Robert Evans, un type qui arrive de nulle part, qui change tout un cinéma, toute une façon de faire des films, et qui repart, en fait. Et qui arrive avec, qui prend l'argent des financiers et qui le donne aux artistes. Ce qui a vraiment fait peur à plein de gens, quoi. En produisant des films où tout d'un coup, à la Gaumont, il y avait Alain Poiré, des gens comme ça au Fechner qui essayaient de faire des grosses comédies comme Je marche à l'ombre, tout ça et tout. Et lui, à côté, il arrêtait le temps en faisant des films comme Don Giovanni ou Tosca ou des trucs comme ça, c'était incroyable. Tout en ayant quand même le panache d'être avec de grands acteurs. Il y a des citations incroyables. Moi, je veux reparler de l'épisode de La Lune dans le Caniveau à Cannes, où tout le monde sait que le film...
De Jean-Jacques Bénex,
pardon. Et où il dit, à un moment donné, quand tout le monde sent, et surtout Depardieu, que le film n'est pas bon, et Depardieu se répand partout en disant que c'est une merde, lui, il dit à tout le monde, c'est pire que Diva. Et je trouve ça formidable. C'est-à-dire qu'il avait à la fois le compliment et le non-compliment. Et voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup touché, ce livre. Voilà.
J'en suis ravi. C'est vrai que Toscan avait le sens de la formule, que ce soit dans le succès et dans l'échec, il savait toujours sortir la phrase qui faisait mouche.
Et il avait des carnets pour ça aussi.
Oui, il avait des carnets dont il soumettait quelques phrases à ses amis les plus proches. Ouais. Et comme il était interviewé en radio et en télé très très fréquemment, c'était l'ambassadeur du cinéma français, c'était vraiment le roi du cinéma français. Et à chaque fois, il réussissait à tourner les choses de façon humoristique, fine, et sans que ça soit des formules creuses, parce qu'on lui a reproché ce côté un peu verbeux. C'était le sketch donc des Inconnus. Il n'était pas que ça. Tout ce qu'il disait reposait sur un socle de culture, une belle culture française. Il défendait la littérature, il défendait la musique classique. Et c'était quelqu'un de, en plus, de très ouvert, très généreux. Et donc, il a marqué son temps à cause de toutes ses qualités.
Mélita Toscan-Duplantier, bonjour.
Bonjour.
Mélita, ça doit être quelque chose d'assez étonnant d'avoir vécu de nombreuses années avec un homme et tout à coup de voir un livre qui porte son nom. Donc, de voir tout à coup un homme qu'on a connu, qu'on a aimé, devenir un personnage quasiment de fiction. Comment est-ce que vous lisez ce livre ?
Ben d'abord, je trouve qu'il était temps qu'il y ait un livre sur lui. On voit des biographies sur des gens parfois qui n'ont pas fait grand-chose. Je trouve que voilà, le livre est très très bien et très vrai, d'après la famille qui l'a lu, d'après tous les gens qui ont été proches de lui. Et donc, je trouve que c'est lui rendre hommage et il le mérite. Donc, tout à l'heure, Anne-Mathieu, tu parlais de la Tosca. Anne-Mathieu, c'était pas du tout pendant le...
Non, pas la Tosca, mais c'était Don Giovanni.
C'était Tarkovski, Fellini,
Carmen. Je parlais de Carmen, je me suis trompé. Ah, c'était oui, sur voilà. Carmen, les deux gros films de la Gaumont qui ont été faits sur l'opéra.
La Tosca, il l'a fait tout seul et il a eu beaucoup de mal à
beaucoup
le faire.
Beaucoup de mal, je confonds. Ouais.
Parce que... Mais c'est vrai qu'à l'époque de la Gaumont, il disait toujours... grâce à la Gaumont, il a pu se faire plaisir. Alors, ça paraît égoïste, mais non, il a produit que les artistes. Il ne pensait qu'aux artistes. Il n'a jamais pensé en produisant un film, que ce soit la Gaumont, mais même après, en tant qu'indépendant, à l'argent que ça pourrait rapporter. Il s'en foutait, en fait.
Il y a des amitiés de cinéma très étonnantes, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un, Toscan Duplantier, qui avait l'image d'un producteur un peu mondain, à l'aise avec les puissants, et des amitiés très fortes avec des gens qui ont une réputation très, très, très opposée, comme Maurice Pialat ou Gérard Depardieu.
Oui, c'est d'ailleurs deux des hommes qu'il a le plus aimé dans sa vie professionnelle et dans sa vie amicale, avec Rossellini. Mais Pialat, oui, il adorait Pialat, alors que... Beaucoup de ses amis nous disaient, mais comment tu fais pour le supporter? Il est insupportable. Mais il l'adorait, il a beaucoup souffert quand Pialat est mort. Et d'ailleurs, il est mort un mois après.
C'est un rapport amour-haine, c'est des gens qui s'engueulaient tout le temps, qui se criaient dessus, qui se réconciliaient. On a l'impression que c'est des années de cinéma et que c'est comme Pialat ou comme Histoire avec Claude Biru, on a l'impression que c'est que des engueulades, des grandes gueules, des mecs qui se mettent sur la gueule.
Daniel gueulait pas beaucoup, non, c'était surtout Pialat qui gueulait. Donc quand on faisait un dîner, Daniel pouvait être très silencieux. Donc on ne l'a pas souvent vu silencieux, Daniel, mais avec Pialat, il pouvait devenir extrêmement silencieux.
C'est un peu le décodeur de ces gens-là, c'était un peu le fusible. Il savait les calmer, on a l'impression, quand on lit le bouquin. Il savait les mettre en valeur.
Il était un pacificateur, en fait.
Oui, un pacificateur, tout à fait. Et comme un phare, parce que quand j'ai dit qu'il manque, il était une responsabilité artistique dans un milieu. Maintenant, on fait beaucoup d'argent dans le cinéma. Et lui là, il disait, bon, non, il faut faire ça. Il ne faut pas, comme un peu disait Jacques Chancel à la télé, il ne faut pas faire ce que les gens veulent voir. Il faut leur donner vraiment une autre chose à regarder, de l'opéra, des films compliqués, choses, voilà, avec l'argent.
C'était leur offrir, cet art qu'ils ne pouvaient pas se permettre, les gens n'ont pas les moyens.
Et ces films restent d'ailleurs, voilà. C'est ce qu'il dit, c'est pas pour maintenant que je les fais les films, c'est pour plus tard, et vous verrez que la Gaumont était très fière beaucoup plus tard d'avoir une vraie cinémathèque, un vrai patrimoine grâce à Toscan.
Bien sûr, la Gaumont ne montre que les films que Daniel a produits quand ils font des rétrospectives.
Ouais, c'est ça, ouais.
Jean-Marie Le Scornec, Jean-Marc, je sais pas pourquoi, je vous mets un I, je ne sais pas, j'ai un goût du I.
Je n'aime pas trop ce prénom de Jean-Marie, sachez-le, Edouard.
Je vous écrirai une lettre d'excuse au nom de Jean-Marc. Vous avez, pour écrire Toscan, vous avez passé plusieurs mois, plusieurs années avec cet homme. Est-ce que ça a été des mois agréables de chercher, de recueillir des témoignages?
Ça m'a pris à peu près 2 ans, outre évidemment mon travail à la Dépêche du Midi. 2 ans de recherche, à la fois de recherche évidemment dans les archives, notamment à la Cinémathèque de Toulouse, qui est une bibliothèque très très bien fournie en revues et en livres de cinéma. Et 2 ans aussi, et surtout, à rencontrer des gens. J'ai commencé par la famille, par Ariane, la fille aînée de Daniel Toscan-Duplantier. Il y a eu les amis de jeunesse de Sciences Po, dont il était question tout à l'heure, des gens charmants qui étaient ravis de parler de leur ami. Et puis, les gens de cinéma. À ce sujet, d'ailleurs, je dois rendre hommage à Mélita, qui m'a rendu de fiers services dans ce domaine, qui m'a permis de rencontrer notamment... Gérard Depardieu ou Isabelle Huppert, qui étaient des personnalités essentielles dans la vie de Toscan.
Vous avez rencontré donc, Gérard Depardieu?
Oui,
drôle
tout
de
à
type,
fait.
Drôle de type, il paraît.
Ouais.
Gérard Depardieu, on sait très bien que c'est quelqu'un de très occupé. C'est très difficile de l'attraper au vol. Ça a été le cas, c'était à Cannes l'an dernier. dans un périmètre à Cannes où tout le monde est très occupé. Donc je l'ai vu et ça a été tout de suite, quand il s'est agi de parler de Toscan, tout de suite il a été chaleureux, il a été enthousiaste, il a su trouver les mots et on sentait qu'il y avait beaucoup d'émotion quand on lui posait des questions sur son ami Toscan. Donc 2 ans de travail, certes, mais 2 ans de
deux,
plaisir.
2 ans de plaisir à rencontrer des...
De redécouvrir une histoire que je connaissais comme tout le monde assez vaguement et que j'ai pu creuser avec tout un tas de gens, que ce soit des amis, des gens peu connus ou des célébrités, qui tous étaient vraiment très contents qu'on parle de Toscan des années après sa mort pour raconter qu'il n'était pas seulement... c'est triste à dire, l'homme dont la femme Sophie avait été assassinée, qui n'était pas seulement l'homme qu'on voyait monter à Cannes les marches avec de jolies femmes, mais qui était un homme qui a défendu la culture française, mais comme le chevalier sans peur qu'il était, le noble qu'il était, qui montait sur son cheval et qui était prêt à pourfendre tous les moulins
à vent. Merci.
Une sorte de Don Quichotte du cinéma.
Cher Jean-Marc Le Skouarnec, merci. Ça s'appelle Toscan, c'est aux éditions Séguier. Merci Mélita Toscan du Plantier d'être passée comme ça, d'ouvrir la porte. Ça vous a fait plaisir. Et puis on va vous réconcilier avec le prénom Jean-Marie. Il y en a pas qu'un, il y en a des tas. Des
Jean-Marie. Il y a Jean-Marie Gouriot qui est venu
aussi. Voilà.
Il
y en a d'autres. Merci. Oui. Merci.
Edouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
Thierry Paret, vous étiez prêt dès 8h30, c'est votre honneur, mais le journal est à 8h32 aujourd'hui.
Radio Nova.
Il y a bien longtemps que la Roumanie n'avait pas connu de manifestation aussi importante. 2 mois après la victoire des sociaux-démocrates aux législatives et pour la 2e journée consécutive, 300 000 personnes ont défilé dans les rues des grandes villes du pays, dont la capitale Bucarest, pour dénoncer l'adoption d'un décret gouvernemental, décret adopté de nuit en urgence, qui vise à alléger le code pénal. L'abus de pouvoir, par exemple, n'est plus passible de prison, sauf à provoquer un préjudice supérieur à 44 000 euros. Les Roumains n'ont pas tardé, évidemment, à comprendre que ce décret permet à de nombreux hommes politiques d'échapper à des poursuites. Ce décret, il n'a pas été adopté à ce moment-là. Par hasard, le chef des sociaux-démocrates au pouvoir est impliqué dans une affaire d'emploi présumé fictif. Ça rappelle quelque chose. Et son procès s'est ouvert mardi dernier avec la Bulgarie. La Roumanie est un des pays les plus corrompus de l'Union européenne. François Fillon est soupçonné d'avoir touché plus de 750 000 euros de bénéfices depuis juin 2012 grâce à sa société 2F Conseil. L'opacité de ses clients qui conseillent et son rôle dans cette entreprise qui conseille de nombreuses sociétés du CAC 40 sont notamment pointés du doigt par certains élus qui évoquent des soupçons de conflit d'intérêts. L'émission envoyée spéciale par ailleurs doit diffuser ce soir des extrait vidéo inédit et embarrassant d'une interview de l'épouse de François Fillon. Interrogée par des journalistes britanniques, Pénélope Fillon déclarait notamment ceci, c'était en mai 2007, « Moi, je n'ai jamais été l'assistante de mon mari et je ne me suis pas occupée de sa communication non plus. » Nous créerons une taxe sur tout nouveau contrat d'employés étrangers. Dans un entretien, Marine Le Pen annonce son intention de mettre en place une priorité nationale à l'emploi. La candidate du FN à la présidentielle doit présenter son programme ce week-end à Lyon. EDF accentue sa politique de suppression d'emplois. Quelques 5000 postes devraient être supprimés dans les 3 ans. Rex Tillerson, en lieu et place de John Kerry, le Sénat américain a confirmé l'ancien PDG d'ExxonMobil au poste de secrétaire d'État. L'industriel texan de 64 ans devient donc le visage de la diplomatie américaine. Selon la Banque centrale mexicaine, le montant des envois des Mexicains expatriés vers leur pays d'origine s'est accru de près de 9%. Donald Trump a menacé durant sa campagne de ponctionner ce flux pour financer la construction de son mur à la frontière entre les deux pays.
Attendez, Nova. Qu'est-ce qui se passe?
Le journal est terminé.
Ah, il est terminé.
Il a fait exprès. Il a fait exprès.
On va faire météo baston.
Non, non, mais il a fait exprès. Il a fait exprès. Il a arrêté.
Il a raison.
Si, le mec salaud, il nous a piégé.
Atmen m'écoutait. C'est incroyable.
Très fort.
Quel est ton prénom?
J'étais là.
C'est Brahim. C'est Brahim. Je sais, Yacine ne t'a pas payé.
Tu fais le nuage. Il fait le nuage.
On fait une petite baston à l'arrière pendant la météo. Vas-y, fais la météo.
Météo baston à la guitare.
Attention.
Tu vas avoir beaucoup de vent ce week-end. Attention.
Prêt pour la baston?
Laissez-moi la tête.
fin de la baston.
C'était bien, non plus.
Je demande de vous arrêter.
Fin de la baston. Jacques Chou.
J'ai gagné, non?
Jacques Chou va dans la rue. Il a ramassé les corps, ramassé.
Je crois que la rue a changé de camp, là.
Ramasser les corps au sol.
Il y avait une ambiance sonore, une expérience sonore très intéressante. Hein.
Ouais, j'ai le nez pété. Là.
C'était
bon.
Quelqu'un a un pansement?
Je sais pas ce qui s'est passé exactement.
Allô, Jacques?
Oui, c'est ça.
Attendez, je ramasse les morceaux. Qu'est-ce qui se passe dans la rue?
Non, je suis dans la piscine, moi. C'est vous qui étiez dans la rue, non?
Non, donc, il y avait une petite baston de studio, ça arrive.
Bah oui, ça va, il n'y a pas de blessés?
Oui, il y a des gens qui ne se relèvent pas, mais ça c'est...
Oh merde.
Alors, vous êtes avec
qui? Nous, on est dans la piscine de Montreuil, où apparemment le niveau de silence, il y a un silence qui est très chargé ici. Oui. C'est 70 dB, même quand il y a personne. Et là, il y a les pompiers qui s'entraînent, il y a l'équipe de France de plongeon qui va arriver. Je suis avec un maître nageur.
Et bonjour à tous.
Bonjour monsieur.
Salut Nova.
Vous êtes en maillot de bain, monsieur?
Oui, mais en dessous le short.
Ça s'entend quand même, oui.
En dessous le short et le t-shirt quand même.
Vous avez un t-shirt quand même, parce qu'il paraît
le
que c'est des
t-shirt
mythiques.
MNS et oui. Le short.
Est-ce que vous aimez bien exhiber vos muscles?
Ah, alors pas du tout, au contraire. Moi, je porte le t-shirt tout le temps parce qu'effectivement, je suis assez pudique. Finalement, je ne vais pas souvent dans l'eau. Finalement, je suis bien content de ne pas avoir tant de ça. Moi, je nage quand il n'y a personne, voilà.
Mais votre pudeur vient d'une approche de la vie, ou est-ce que vous n'êtes pas content de votre corps, ou est-ce que vous avez un système pileux que vous avez envie de...
Je suis très content de mon corps et je suis imberbe.
Oui. Oui.
Non, en fait, je le montre pas parce que je suis trop beau, je suis maître nageur. Donc...
Vous avez peur de déconcentrer les gens de leur mission.
J'ai peur de déconcentrer mes élèves, oui.
Parce que vous ne voulez pas être un objet de désir.
Non, je ne veux pas être une fausse motivation pour les gens. Voilà.
Excusez-moi, je fais une petite intermède pompier à l'entraînement. Je vous écoute.
Ah bah, je passe juste mes consignes. Donc en fait, là on part sur du 50 mètres brasse.
Ouais.
Donc respiration tous les deux mouvements de brasse.
Ouais.
Brasse sous l'eau.
Ouais.
Ensuite, vous remontez à surface. Vous faites une brasse où vous respirez une fois. Et ensuite, vous refaites ça tous les deux mouvements.
Mais okay, monsieur, ouais, mais comment
sur le retour, vous faites pareil, mais tous les trois mouvements.
Mais il faut. Comment on peut se rappeler ces indications en nageant?
Je sais pas, ok, mais là, c'est les pompiers de Paris, ils sont partis à fond.
Oh, les mecs, ouais,
ils sont chauds, les pompiers. Hein. Mais c'est parce qu'en fait, ils nagent beaucoup, mais pas vite.
Mais c'est pas en cas d'incendie dans l'eau.
C'est ça. Non, ils ont le talkie sur le bord, quand même, et le portable aussi.
C'est vrai, il y a le talkie-walkie sur le bord de la piscine, là, si jamais ils sont appelés.
Mais qu'est-ce qu'ils doivent éteindre dans l'eau? Quel type d'intervention?
Ils doivent éteindre leur masse musculaire, leur masse corporelle. Ça, c'est vrai qu'ils sont vachement plus balèzes que les maîtres nageurs.
Ils sont taillés.
Ouais, ils sont plus taillés que les maîtres nageurs, franchement. Donc, ils s'entraînent vraiment.
Est-ce que vous êtes comme les coiffeurs qui se regardent beaucoup les cheveux dans la glace? Est-ce qu'en tant que comme qui vivait en maillot de bain, vous êtes beaucoup dans un rapport au corps? Qu'est-ce que je raconte?
Non, pas trop. L'image ne se reflète pas trop quand il y a les subaquatiques. Les subaquatiques, c'est les lampes qui reflètent sous l'eau. Là, nous, on éteint le matin à la matinale, donc c'est super sympa et c'est sombre, tamisé. Et puis la lumière est que dans l'eau, donc en fait, quand on se regarde, on se voit pas.
Qui dit piscine dit eau de piscine, qui dit eau de piscine dit chlore. Comment faites-vous pour réhydrater votre corps en sortant de la piscine chlorée? Y a-t-il des crèmes, des onguents, des conseils?
Ah, une petite douche avec du savon, ça suffit, ouais.
Mais la douche,
c'est pas ouais. Mal pour le visage. Oh, on a le droit de faire de la pub?
Oui, oh, allons-y. Ah bah,
je crois, oui. Ouais, voilà, y a des crèmes.
Oui, parce qu'on est quand même sur une eau qui est très calcaire, là j'en parlais à ma voisine. Et donc après, quand même, la peau tire, la peau est sèche, Christophe.
Ah oui, c'est horrible.
Effectivement, la peau peut être sèche.
Des boutons.
Est-ce qu'il y a des relations amoureuses sur les plongeons? Parce que la piscine de Montreuil, c'est là où il y a eu ce magnifique film qui s'appelle L'effet aquatique.
Oui, alors heureusement que les maîtres nageuses ne sont pas aussi... ne sont pas les mêmes réflexions aux hommes, quand même, que dans le film, mais... c'était chaud quand même dans le film, aller voir les gens dans les douches. Non, nous on passe pas notre temps à parler aux gens dans les douches.
Vous n'avez pas mis des petites caméras dans les douches pour femmes, vous, personnellement?
Non, on n'a pas mis des petites caméras dans les toilettes non plus. Voilà.
Maître nageuse, maîtresse nageur, maîtresse nageuse, on ne sait plus, il ne faut pas faire de...
Ouais, des maîtres nageurs, femmes.
Bon, moi j'ai un
les plus belles à Montreuil.
Moi j'ai tout ce qu'il me faut.
Oui. Et vous avez
été en plus. Merci, et je vous laisse avec Jacques Souvent, apprenez-lui la brasse, ça peut toujours être utile.
Moi, je vais peut-être rester un petit peu là parce que j'aimerais entendre les sons des plongeons et des plongeurs de 10 mètres. Et ils sont en train d'arriver, ils se déchauffent.
Poussez-le dans l'eau!
Salut.
Oui. L'équipe de France de l'INSEP donc s'entraîne quasi tous les matins à la piscine. On voit donc les plongeons jusqu'à 10 mètres. Donc là, c'est super sympa.
Il y a trop de pression. Merci, messieurs. Merci. On va s'y mettre.
À toutes.
On va nager à sec.
Plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
Qu'est-ce qu'on entend ? C'est Atmen qui est là-bas. Alors, on va parler d'élections par tirage au sort avec Nicolas Corry et Thomas Baumgartner. Mais Rudy, vous allez rejoindre le live, là ? C'est qui aujourd'hui ?
C'est Chocolate Genius Incorporated qui est accompagné du fantastique Seb Martel.
Seb Martel, j'aime beaucoup les frères Martel. Alors, allez-y avec Atmen. Et puis juste après cette conversation, on écoute. Là, ils sont en train de faire la balance, Atmen.
Je suis là, vous m'entendez
êtes, oui, la balance a lieu.
Oui. Il y a du monde, vous pouvez crier là, s'il vous plaît. Ouais, on est.
Il y a du monde, tout le monde spontané. Est là pour le chocolat. Oui. Voilà. Ça me fait penser à Fête du Bruit. À tout de suite. Ouais, ça marche toujours, ça. Ouais. Merci, Atmen. On va vous couper le retour. Bonjour, Nicolas Corry des Jours.
Bonjour.
Thomas Baumgartner, on a une nouvelle idée pour la démocratie.
Est-ce qu'elle est nouvelle ? Je ne sais pas, c'est justement un des sujets de cet article qui est un nouvel épisode de l'Obsession des Jours, lesjours.fr, l'obsession idée fixe, puisque vous faites, Nicolas Corry, le tour dans cette série-là des idées de fond, parfois les nouvelles idées qu'on peut trouver dans les débats qui sont en train d'avoir lieu de temps en temps en vue des présidentielles et d'autres élections. En l'occurrence, là, il s'agit du tirage au sort plutôt que l'élection. Tirage au sort comme outil de démocratie. C'est une idée nouvelle peut-être, qui est défendue par certains. Vous parlez d'Arnaud Montebourg, qui est plus en course, mais vous dites que Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon parlent de cette idée-là dans leur programme. Mais vous faites aussi l'histoire de cette idée-là.
Oui, non, effectivement, c'est vraiment l'intérêt de cette obsession, c'est qu'on va chercher les idées qui circulent dans la campagne et on remonte dans le temps. Et là, c'est vrai qu'effectivement, cette histoire de tirage au sort en politique, donc l'idée, hein, en quelques mots, c'est on remplace l'élection ou une partie de l'élection et on désigne des représentants par tirage au sort. C'est ce que proposait Montebourg, il voulait que 100 citoyens, donc tirés au sort, intègrent le Sénat aux côtés d'autres sénateurs élus par l'élection.
Comme des jurés dans un tribunal.
Exactement, voilà, comme des jurés dans un tribunal. Et en fait, ça vient d'où cette idée ? Ça vient de la Grèce antique, en fait. Ça vient de très loin. Et à l'époque, en fait, ce qu'on se rend compte, hein, c'est que le tirage au sort était considéré comme étant démocratique et pas l'élection. L'élection, c'était considéré comme étant un mode de désignation qui était même un peu plus... qui était aristocratique, d'une certaine manière, parce qu'on désignait des représentants, donc on désignait des gens qui étaient considérés comme étant les meilleurs. Et pas quand on tire au sort, on tire, n'importe qui peut être désigné. Et donc, ce n'est pas sur sa compétence qu'on est désigné, mais sur sa capacité ensuite à représenter le peuple. Donc, on est quelqu'un issu du peuple, donc on peut mieux le représenter. Ça, c'est des idées qui circulent pendant des centaines d'années, puisqu'en fait, on se rend compte que quand on arrive à la Révolution française, c'est les constitutionnalistes qui vont faire la constitution... la République française et aussi les constitutionnalistes aux États-Unis vont avoir ça en tête au moment où ils vont mettre en place des systèmes, et c'est des systèmes électifs. Et ces systèmes électifs, ça va être avec l'idée de nommer les meilleurs, de nommer des représentants qui vont pouvoir agir au nom du peuple, mais ce ne sera surtout pas... L'idée, c'est de surtout pas confier le pouvoir directement au peuple, parce qu'on a peur du peuple, on a peur que les gens ne soient pas instruits et donc fassent n'importe quoi s'ils sont désignés pour être les gouvernants.
Alors, on se rend compte aussi, en vous lisant, Nicolas Corry, que le moment de l'élection, le moment des débats avant les élections, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour discuter d'une réforme des institutions. Vous dites c'est paradoxal de vouloir se faire élire tout en demandant que, justement, l'élection soit à minima diluée, d'une certaine manière, par cette forme de démocratie et ce tirage au sort. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est qu'on se rend compte comment une idée comme ça, vous dites, ça existait dans les esprits fin du 18e, comment ça réapparaît dans un débat contemporain ?
Oui, voilà. Alors, donc, après la Révolution française, on est parti sur une idée, c'est qu'on vivait dans des régimes qu'on pouvait appeler démocratie. Et effectivement, c'était un mot qui était accepté et qui n'était pas remis en cause. Et puis, alors que donc, pour les représentants, enfin pour les constitutionnalistes, ce n'était pas leur idée, ce n'était pas que les régimes qu'ils étaient en train de mettre en place, c'était vraiment des démocraties. Et puis là, on passe 150 ans, même 200 ans, et on arrive effectivement en France dans les années 90, et là, il y a un politologue, un philosophe, Bernard Manin, qui dans un livre « Principes du gouvernement représentatif » est vraiment a retracé toute cette idée et s'est rendu compte et a expliqué que donc on était effectivement, aujourd'hui, on vivait en France dans un régime qu'on pouvait appeler représentatif et pas dans un régime démocratique. Et ce qui est assez effectivement intéressant, c'est qu'il a été le premier à remettre ça au goût du jour. Et à partir de là, plusieurs politologues se sont intéressés à ce sujet et ont essayé de, voilà, ont essayé de réfléchir en se disant, tiens, et au fait, si les Grecs avaient utilisé le tirage au sort, pourquoi nous aussi, on ne pourrait pas mettre un peu de tirage au sort dans notre régime.
C'est religieux, c'est quasiment philosophique, l'idée de faire confiance au destin, en la chance, au hasard.
Oui, alors effectivement, ça reposait effectivement en partie là-dessus, cette idée que, en Grèce notamment, le fait que il y avait effectivement, il y avait Dieu, enfin il y avait les dieux grecs derrière tout ça qui pouvaient désigner par le hasard des bonnes personnes, mais c'était aussi vraiment l'idée que quand on veut vraiment être démocratique, il faut vraiment faire confiance à n'importe qui. Et c'est vraiment, d'ailleurs, on voit avec le principe des jurés d'assises, qu'on est capable de désigner des gens qui vont après condamner des gens, ils peuvent condamner des gens à de lourdes peines.
Ils sont entourés quand même, ils sont entourés, ils sont conseillés, il y a un juge, on leur
Il y a un juge, effectivement. Mais enfin,
ils sont responsabilisés.
Mais après, on vote, enfin, ils votent, et ça peut être effectivement un principe qu'on peut appliquer en politique. Enfin, c'est un peu les partisans du tirage au sort pensent que ça peut être un bon principe.
En politique, le hasard fait parfois bien les choses. C'est le titre de l'article qui est paru aujourd'hui sur lesjours.fr que vous signez, Nicolas Cory. On se rend compte qu'il y a un mouvement en cours pour qui demande un Sénat citoyen. Voilà, il y a un mouvement aussi qui n'est pas seulement défendu par les candidats en ce moment à l'élection présidentielle. On comprend en vous lisant que ce sera compliqué à aboutir d'ici l'élection présidentielle. Mais ce que ça signifie, c'est une idée de fond qui va continuer à se développer d'après vous.
Oui, je pense que c'est effectivement une idée intéressante. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement, là, Arnaud Montebourg a présenté cette idée. Elle n'a pas vraiment fait l'objet de débat. Donc ça, c'est pas vraiment bon, on va dire, pour une idée, parce que
qu'elle soit discutée pour exister.
Ouais, il faut qu'elle soit discutée. Il faut qu'elle fasse l'objet de débat. C'est vraiment qu'elle soit combattue. Mais en fait, en remontant, je me suis rendu compte que Ségolène Royal en 2007 avait aussi présenté cette idée. Et à l'époque, ça avait provoqué d'ailleurs beaucoup de réactions très très négatives de la part des politiques qui estimaient qu'on n'allait pas les remplacer par des gens tirés au sort, que c'était vraiment n'importe quoi. Et là, donc aujourd'hui, oui, il y a encore Benoît Hamon et qui propose un petit peu de tirage au sort. Alors lui, c'est dans sa proposition sur le revenu universel, il considère qu'il doit y avoir une grande conférence qui doit se réunir pour fixer comment on sera concerné par le revenu universel et à quel montant on le fixera. Et Benoît Hamon a dit que cette conférence serait organisée avec les partenaires sociaux et avec des assemblées régionales de citoyens tirés au sort. Donc ça veut dire qu'il n'a effectivement, il a cette idée qui est en l'air et qui peut, si Benoît Hamon est élu, qui peut être mise en place.
Histoire, traçabilité, peut-être début de suite d'une idée, à suivre donc sur lesjours.fr, signé Nicolas Cory.
Merci messieurs, merci Thomas. On part tout de suite, on repart dans le Café Nova avec Rudy Aboa, Beatmen. Messieurs, vous êtes avec Chocolate Genius Incorporated. Yes, ils sont là, ils sont prêts à jouer. Rudy, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends et c'est un vrai plaisir.
Super. Bonjour Edouard.
Rudy,
sous la verrière,
comment ça se passe sous la verrière?
Ça se passe assez bien, il y a du monde, c'est calme parce que la musique va être douce ce matin. On a deux personnages, deux artistes exceptionnels.
C'est vraiment gagnant-gagnant ce matin. Oui.
Exactement, notre invité ce matin est Chocolate Genius Incorporated. Marc-Anthony Thompson est un artiste à part, un songwriter solitaire, un artiste intrigant, un anti-héros de la musique américaine. S'il fallait en tirer une image, alors nous pourrions le décrire comme un lonesome cowboy, le côté pauvre en moins. C'est loin d'être un hasard, mais plutôt une belle connexion de la vie. Si depuis deux albums, les deux dernières en question, Chocolate Genius a trouvé une nouvelle maison en France, celle du label No Format, dont nous avions reçu récemment des artistes tels que Blic Bassi, Alani ou encore Mélissa Lavo. Car oui, Chocolate Genius n'a pas d'autre format que sa liberté artistique et oh, qu'il est complexe de nos jours de ne pas pouvoir mettre d'étiquette sur un artiste. Complexe, mais pas désagréable. Le prix à en payer est peut-être celui de la notoriété, mais pas celui de la qualité de sa musique. Chaque nouvel album de Chocolate Genius est un nouveau départ. Sa vie alimente ses chansons. Sa dernière œuvre s'intitule Truth versus Beauty. Ouais. Le versus est important. Un chanteur qui dit la vérité et qui la rend belle. Alors
ils
partons
sont là
ce matin sur une page blanche.
Je veux les entendre. Hey guys, how are you? I am in the studio, I want to hear you from here, if the sound is good.
Passe plutôt le
je veux vérifier que le son est bon, je reste dans le studio.
D'accord.
I want to check the sound from where I am, je vais vérifier le son. Guys, you just arrived in France from where?
Mais on ne voit pas.
Ils viennent d'arriver en France de loin.
From the lost land of America.
du pays perdu d'Amérique, le pays mort d'Amérique. You just took the plane?
Yes, I stole the plane.
Il a volé l'avion.
I'm not going back.
You want to stay here? You want to stay in France? You're welcome.
Thank you.
Yeah, on vous écoute. Chocolat Genius.
I want to stay at your house. You have a place?
Okay, yeah, but only my bed. Come with your girlfriend. Okay.
Ah, I don't need a girlfriend.
Okay. Okay. Let's be family.
Chocolat Genius est accompagné ce matin de j'arrive. Seb Martel, éminent membre de La Sondas Marteles. Messieurs, Let the Truth and the Beauty Wake Up the Nova Listeners. Le premier morceau est Detroit, l'ouverture de l'album. Marc, Chocolat Genius, Seb.
Chocolat Genius Incorporated avec le grand Seb Martel. Thank you guys, merci beaucoup. C'est fini. On sera demain à Brest. Publicité, Thierry Parel et Trente Glorieuses. Je vous embrasse.
7h, 9h, plus près de toi.